La discussion que vous allez écouter a eu lieu dans le jardin de la Parole Errante le 11 juin 2024, à l'invitation du café-librairie Michel Firk. La publication par les éditions Audimat de K-Punk, recueil de textes mis en ligne par Marc Fischer pendant une vingtaine d'années sur le blog du même nom, a été l'occasion de poursuivre des discussions déjà entamées autour des écrits de ce théoricien britannique décédé en 2017. Dans son travail, les productions culturelles, musique, romans, séries télé, cinéma, apparaissent comme des symptômes du monde tel qu'il va. La critique y est diagnostique. Les objets artistiques sont pris au sérieux pour ce qu'ils disent du monde et ce qu'ils font. Ce court-circuit entre culture et politique, il l'observe particulièrement dans ce qu'il appelait « modernisme populaire » et qui se diffuse alors dans le jeune prolétariat britannique. Musique punk et post-punk, SF, cinéma grand public et BD, qui cristallisent tous à leur manière un rapport de force et un refus. Cette parenthèse créative sera courte et emportée par l'écrasement politique dans les années 80 de tout ce qui restait attaché à l'histoire du mouvement ouvrier. Lui survivront des formes culturelles marquées par la hantise du passé dans un présent réduit au seul réalisme du capital. Certainement, il n'est pas anodin que nous ayons cet intérêt dans un lieu qui participe à l'élaboration et à la mise en circulation d'objets et d'idées, où la question des conditions de production de ceux-ci, dans un monde adverse, se pose chaque jour. C'est ce qui continue de nous intéresser dans le travail de Marc Fischer.
Du coup, c'est moi, on va pouvoir se lancer gentiment. Bonsoir à toutes et tous. Donc, je disais, pour dire que donc on est là, comme vous le savez, pour parler de Marc Fischer et donc de cette espèce d'énorme pavé K-Punk qui a été publié par les éditions Audimat. C'est un objet un petit peu monstre. Hein. C'est le blog que Marc Fischer a tenu tout au long de sa vie, qui a été un de ses premiers espaces de médiation vis-à-vis de son public. Et donc, pour en discuter, tout à la gauche de la tribune, il y a Guillaume Huguet, donc qui est critique, théoricien, qui s'occupe des éditions Audimat, notamment. Juste à côté de lui, Julien Guazzini, traducteur, qui fait partie de la maison d'édition Sans Soleil, qui a publié aussi un livre de Fischer, Par-delà étranger et familier, et d'autres textes qui ont paru dans diverses maisons d'édition. Vincent Chanson, qui est juste ici, donc toi tu es docteur en philosophie, tu participes aussi aux éditions Sans Soleil. On a sur la table un livre que tu viens de faire paraître aux éditions Amsterdam, Techno & Co, sur, on pourrait dire, l'imaginaire social des musiques dansantes électroniques. Et Zoé, qui est doctorante en philosophie, qui travaille notamment sur les liens entre fiction et politique. Mais donc du coup, je me demandais un petit peu comment est-ce qu'il pourrait être pertinent d'introduire cette espèce d'énorme objet. Et en toute modestie, je me suis dit qu'une piste qui pourrait être chouette, c'était de reprendre un petit peu un geste que fait Fischer au début donc de l'autre livre qui a été publié chez Audimat, Désir post-capitaliste, qui reprend son séminaire qu'il faisait à Goldsmith jusqu'à sa mort. Et au début, il présente trois pubs à ses étudiants, et donc il y a une pub pour des jeans Levi's, si je ne m'abuse, la pub de Apple, la fameuse, qui reprend un petit peu Orwell, et le discours, la petite phrase d'une élite démocrate, et il passe beaucoup de temps là-dessus pour essayer de décortiquer ce que ces objets disent. Et donc moi, je me suis demandé qu'est-ce qu'on pourrait écouter pour introduire ça. J'ai pas prévenu mes collègues, donc ça va être une surprise. Et j'ai trouvé cet objet par pur hasard.
Noisettes, du lait écrémé, Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant.
Et pour les fêtes, découvrez la nouvelle édition limitée Nutella.
Ça a l'air d'être hors sujet dit comme ça, mais si j'ai choisi cette publicité particulière, donc j'ai pas vérifié la date de sortie exacte parce que c'est pas très intéressant, mais je m'en souviens de quand j'étais petit, donc j'irais fin 90, début 2000, la grosse louche, mais c'est parce qu'elle a été récemment partagée sur X par un influenceur d'extrême droite, fasciste, Damien Rieu. Et avec une légende un petit peu dramatique qui disait « le paradis qu'ils nous ont pris ». Paradis avec un P majuscule, comme dans le paradis perdu de Milton. Et en fait, il semblait faire référence à cette espèce d'espace où des jeunes enfants courent dans les champs, font des jeux, jouent au basket, des choses comme ça, et quelque chose qui aurait été complètement mis en danger par une menace un petit peu extérieure. Et puis il y a ce « il » qui nous a ôté le temps de l'innocence qu'il s'agit de retrouver. Et si on regarde un petit peu ce que font les fascistes, notamment États-Unis en même temps, ça peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de références aux Trente Glorieuses, à une espèce de période post-Seconde Guerre mondiale qui serait le moment où l'Amérique réussissait et que, à cause de l'immigration et d'autres délires wokistes, on aurait perdu. En gros, le projet de restauration consiste essentiellement à ça. La différence entre les années 90, enfin cette espèce de période, la 90 début 2000, et les Trente Glorieuses, c'est que dans les Trente Glorieuses, il y avait la menace communiste qui risquait déjà d'attaquer ce modèle. Dans les années 90-2000, donc le mur est tombé, donc l'hypothèse l'hypothèse communiste tout entière a défailli un petit peu. C'est un des gros sujets de Fischer. Le point commun, par contre, entre ces deux périodes temporelles, c'est qu'il n'existe que parce que le fascisme a été défait comme hypothèse politique dans la Seconde Guerre mondiale. Et il semblerait que chez les extrêmes droites, il y ait cette impossibilité à essayer de se reprojeter dans un fascisme impérial, mais que ça se cogne un petit peu à des murs qui peuvent être un petit peu ce que Fischer décrit sous le nom de réalisme capitaliste, dont on aura peut-être, je l'espère, l'occasion de dire deux mots. Et ce réalisme capitaliste, lui, il essaie de le diagnostiquer via la culture populaire. Et il a une lecture un petit peu qu'on pourrait qualifier de décliniste, ou en tout cas de capture, de quelque chose qui manifestement on avait, on tenait entre les mains et qui a disparu. Et pour essayer de vous le montrer, tout ce que je dis évidemment sera certainement contredit par les personnes ici, mais pour vous essayer de vous donner un petit aperçu, j'avais préparé aussi un autre extrait.
Daylight almost gone. It seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain it never stops, and I've no particular place to go. When I think I'm winning, when I've broken every door, the ghosts of my life blow wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to be king, the ghosts of my life.
Et donc ça c'est David Sylvian dans le groupe, avec son groupe Japan, en 83, si je dis pas de bêtises, et c'est une date qui est intéressante parce que Fischer, dans un de ses billets de blog, dit que tout a commencé à partir en cacahuète pour la pop dans les années 84-85. C'est dit, c'est les deux pires années de la pop pour des raisons conjoncturelles et politiques qui font que pour lui c'était pas possible de produire activement. Ce qui l'intéresserait, je pense, pour très rapidement, parce que il a longuement développé sur le sujet de ce morceau en particulier, dans notamment les billets de blog qui sont liés à son livre Spectre de ma vie, c'est ce qu'on pourrait appeler un certain modernisme populaire, c'est-à-dire qu'il disait à un moment la pop c'était ça. C'était alors avec ses spécificités, un grand arc ou quelque chose comme ça, mais ce que vous entendez avec ces différentes couches sonores, ces rythmes un petit peu distendus, pas en 4/4, un petit peu bêta son, des espèces de petits blips, cette voix vaporeuse, il dit c'était ce que permettait une certaine structure d'imaginaire, on pouvait faire de la pop qui ressemblait à ça. Et ce n'est plus possible. La question c'est de regarder un petit peu ce qui a changé et qu'est-ce qui s'est passé dans l'imaginaire pour que ça se décale. Cela étant dit, c'est pas pour autant qu'il y avait pas de, il n'était pas possible de faire des choses intéressantes, mais que ça passait par un certain rapport au passé, qui s'illustre notamment par le sampling, qui là pareil est aussi très présent dans le livre Spectre de ma vie et qu'on retrouve aussi dans le blog. Nouvel extrait. Donc là, on est à peu près 10 ans plus tard, en 93, si je ne m'abuse, et c'est un morceau qui s'appelle Ghost of My Life, fait par Goldie. Donc qui est un gros morceau de jungle, quoi, qui est fait pour être écouté en club, mais qui sample la voix de David Sylvian, ce qu'on a entendu dans le refrain tout à l'heure, et dont le thème, donc le morceau s'appelait Ghost, celui-ci s'appelle Ghost of My Life, dont le thème est explicite. Fischer voyait dans la jungle, quelque chose dont je pense que Vincent et Guillaume pourront nous parler plus précisément, une espèce de musique qui décrivait parfaitement l'affect du moment. C'était la musique d'une espèce de rave extrêmement, je vais pas en dire trop maintenant, mais en tout cas très rageuse, avec un certain rapport nihiliste peut-être, moi je pense que je pourrais aller jusque là. En tout cas, elle décrivait un petit peu l'affect de ce qui se passait dans un certain moment et ces espèces de frustrations qu'on pouvait ressentir au vu de la configuration affectivo-politique du moment. Cela étant dit, cette espèce d'appel n'est pas obligé de se faire de manière aussi explicite que là, avec un sample de voix, l'expression de la description de fantôme. Fischer a aussi rencontré un peu plus tard des trucs qui lui semblaient complètement lui convenir. Et à cet endroit-là, il s'appuie sur toute une scène théorique. Donc pareil, je fais beaucoup de promesses, hein, mais je vous assure, on parlera. Qui s'intéressait notamment à un certain pouvoir de la musique et à une certaine capacité avec qu'on pourrait appeler les fictions avec un certain rapport à ce qu'on peut appeler des fictions sonores. Et à cet endroit-là, je trouve qu'un morceau qui peut beaucoup y faire penser, ça serait celui-ci. Au moment dubstep qui est situé pour Fischer sur le même continuum hardcore, enfin pour Fischer et Reynolds, quelqu'un avec qui il est en dialogue très régulièrement et notamment explicitement dans le livre. Donc une autre musique urbaine assez anglaise qui au début a donc plus à voir avec un héritage jungle atmosphérique qu'avec l'EDM qui a été popularisé un petit peu plus tard. Et dans ce cadre, dans ce morceau particulier de Burial, Archangel, les samples sont ceux d'une chanson de R&B de Ray G et les percussions sont faites avec des extraits de Metal Gear Solid. Et avec cette espèce d'assemblage hétéroclite, complètement distordu, ramassé et reconstruit, Fischer raconte comment Burial a réussi à produire la musique d'après rave, en fait, de cette impression que l'on a quand on rentre en zigzagant dans des zones commerciales, entre des hangars, un petit peu en redescente, de se dire que la semaine de travail va recommencer, et donc là, tout à la fois là, une espèce d'euphorie de sortie, mais qui va bientôt se cogner avec cette espèce de mur mélancolique du réel et du travail capitaliste aliéné. Et Fischer insiste beaucoup sur l'exigence qu'on peut attendre des productions populaires, et ça aussi on y reviendra. Mais là, dans ce qu'on j'ai montré, on pourrait avoir l'impression que son modernisme populaire est très ancré autour de trucs un petit peu abstraits, très musique électro, et je pensais que c'était pas une bonne idée de laisser avec cette impression. Et je voulais vous proposer un dernier extrait, un petit peu plus cash. Job seeker, can a strongbow, I'm a mess, desperately clutching on to a leaflet on depression, supplied to me by the NHS, it's anyone's guess how I got here, anyone's guess how I'll go, I suck on a roll up, pull your jeans up, fuck off, I'm going home, job seeker, job seeker. So, Mr. Williamson, what have you done in order to find gainful employment since your last signing on date? Fuck all! I sat around the house wanking, and I want to know why you don't serve coffee here. My signing on time's supposed to be 10 past 11. It's now 12 o'clock, and some of you strange bastards need executing. Mr. Williamson, your employment history looks quite impressive. I'm looking at three managerial positions. Et donc là, ce qu'on était en train d'entendre, c'est Job Seeker de Sleaford Mods. Donc on a fait des bons 10 ans, là on est en 2013. Sleaford Mods, Fischer a une sympathie un petit peu particulière parce qu'ils viennent du même trou du cul paumé d'Angleterre que lui. Et il a un rapport quasi, ça fait un peu penser à ce que Pasolini dit quand il parle des personnes qui parlent en frioulant, quoi. Il dit ça, c'est une langue qu'on entend, cet accent. C'est celui que personne veut imiter, personne peut s'approprier. C'est le truc qu'on ne peut pas l'utiliser dans l'espace public. Williamson, le chanteur, a essayé de faire carrière un petit peu partout. Il s'est cassé les dents. Il est revenu et puis à un moment, il était complètement furieux dans son studio. Il s'est mis à hurler sur du métal et il s'est rendu compte que bon, finalement, c'est tous ces trucs de rock, de trucs comme ça, c'était fini. C'est ça qu'il allait faire. Utiliser ce slang et cet accent pas possible. Et raconter sa vie de merde, quoi, en gros. Tous les morceaux se ressemblent un petit peu. Donc là, c'est un sample des Yardbirds. Et ça raconte un entretien fictif entre Monsieur Williamson et son conseiller... Enfin, pas si fictif, je pense, mais entre Monsieur Williamson, le chanteur, et son conseiller Pôle emploi. Je vous traduis juste rapidement des petits bouts parce que c'est compliqué à entendre à l'oreille. Donc le conseiller Pôle emploi demande « Alors, Monsieur Williamson, que faites-vous pour trouver un emploi rémunéré depuis votre dernier pointage ?» Et la réponse, canette de Strongbow, donc c'est-à-dire un cidre qui se négocie à peu près 1,50€ les 44 centilitres. Excellent rapport pétage de clan de prix. Donc canette de Strongbow, je suis dans un sale état. Je m'accroche désespérément en dépliant sur la dépression qui m'a été fournie par le NHS, la Sécurité sociale britannique. Personne ne sait comment j'en suis arrivé là. Personne ne sait comment je vais m'en sortir. Je tète une roulée, remonte mon jean, va te faire foutre, je rentre chez moi. Demandeur d'emploi, demandeur d'emploi. Alors, monsieur Williamson, qu'avez-vous fait pour trouver un emploi rémunéré depuis votre dernière signature? Rien du tout. Je suis resté assis à la maison à me branler et je veux savoir pourquoi vous ne servez pas de café ici. Je suis censé signer à 11h10, il est maintenant midi. Et certains d'entre vous, bâtards bizarres, ont besoin d'être exécutés. Et ce que Fischer aimait beaucoup là-dedans, c'est qu'indépendamment, donc voilà, soit d'une période de créativité intense qui était un petit peu, voilà, qui s'est arrêté assez brutalement parce qu'il y a de la pop au début des années 80. Enfin, c'est non plus compliqué que ça, mais en tout cas, quelque chose qui a été un petit peu perdu. Les parties de reprise un petit peu plus par le sample, par l'évocation des musiques électroniques du continuum hardcore. Il reste des choses comme ça qu'il trouve intéressantes et qui semblent dire quelque chose parce qu'en fait, Clifford Mod, c'est pas les mods tout polis qui font du son qui ressemble au Who, c'est tous les gens qui faisaient les Who sont partis, sont cassés, et tout le monde se retrouve au chômage, il reste juste le gras des chips et des personnes qui se demandent s'ils ont pas déjà complètement perdu pour toujours. Ce qu'il demande à la fin de son article sur Clifford Mod, c'est si en effet, il n'y a pas un moyen de récupérer cette colère, cette haine de classe et d'en faire quelque chose. Donc, cette longue introduction faite, l'idée c'était de lancer vraiment plein de petites balises qui se retrouvent un petit peu dans le livre. Et maintenant qu'on a vu un peu tout ça, c'est tentant de commencer par vous demander à l'un de vous trois ou l'un de vous quatre d'ailleurs, si vous pourriez nous présenter peut-être un petit peu succinctement le parcours biographique de Fischer et notamment c'est de l'endroit depuis lequel il écrivait.
Merci pour ton intro. donc oui, situé biographiquement Fischer, c'est ça. Bon, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire sur sa prime jeunesse. Je ferais peut-être débuter son parcours au moment où il est à Warwick, peut-être. Je sais pas si avant, peut-être que toi, ouais.
Juste une chose. Moi, je vais parler un peu avant qu'on attaque sur le PhD de Warwick, etc. Juste, c'est quelqu'un qui est né à la fin des années 60, ce qui veut dire qu'avant qu'il ait 20 ans, il a vu toutes les défaites possibles de la classe ouvrière. Il a vu le début des années 80, il a vu la grève des mineurs, donc il a vu l'Angleterre et le pouvoir ouvrier se faire laminer directement, comme enfant, puis comme adolescent. Donc il faut imaginer qu'au moment où il va faire tout ça, ses recherches intellectuelles, il va se mettre... En fait, il a déjà assisté à ce moment de restructuration qui a été extrêmement violent, du passage des années 70 aux années 80, et le thatcherisme évidemment. Donc il y a quelque chose qui, dès le départ, et je pense qu'après, ça reviendra dans toutes les discussions qu'on a, parce qu'en fait, ça revient dans tous les textes de Fischer, donc j'en ai lu quand même quelques-uns, et il y a quelque chose du trauma politique. Et le trauma politique, il est assez particulier. Moi, je disais, bon, j'ai une connexion avec Fischer, je suis plus jeune que lui, mais j'ai un peu un lien sur la génération. Donc il est à la fin des années 70, moi je suis des années 60, moi je suis de la fin des années 70, et... Lui, il a vraiment vécu ça, c'est-à-dire que quand il parle de Joy Division et qu'il parle du désespoir qu'on peut ressentir à 13 ou 14 ans dans la Grande-Bretagne du début des années 80, c'est il rend compte d'une expérience quotidienne. On se projette, on peut se projeter nous et reconstruire, mais on peut pas imaginer ce que c'est que. On peut imaginer, mais on peut pas se représenter directement ce qu'a été d'être cet adolescent à ce moment-là. Donc ça va revenir dans ses lectures politiques. Il faut garder à l'esprit, si on peut, quand on essaie de comprendre comment il filtre la question du rapport entre le passé, le présent et la possibilité du futur, de savoir que c'est quelqu'un qui a traversé cet arc particulier à cet endroit géographique et de classe. Voilà. Donc et après, il ira à Warwick. Je te laisse en parler.
pourquoi je ferais débuter son parcours à Warwick. Donc Warwick, hein, c'est là où il fait sa thèse. Et donc tout débute à ce moment, voilà, où il est, donc là, il est dans les années 90, quoi. Donc à l'université, où il y a eu quelque chose qui s'est passé d'important pour... structurant pour une certaine scène théorique anglaise, c'est-à-dire un groupe un peu informel, hein, structuré autour de Nick Land et de Sadie Plant, ce qui s'est appelé le CCRU, donc, en gros, l'unité de recherche sur la culture cybernétique, hein, donc qui est un groupe qui regroupait pas mal d'auteurs, d'autrices, de gens qui vont devenir importants, Fisher, Kojo Eshoun, donc Sadie Plant, Conine, Steve Goodman, etc., hein. Et qui a un moment important dans la scène théorique anglaise, parce que comme l'expliquait Enzo, c'est à ce moment, à mon avis, l'une des choses à retenir de ce moment, c'est cette opération, c'est-à-dire c'est en fait des jeunes doctorants en philo, en gros, ou jeunes étudiants en philo, qui se prennent un peu en pleine face l'explosion rave anglaise et ses suites via la jungle. Enfin, notamment pour eux, la scène jungle anglaise a été structurante, et ils ont cette espèce d'intuition comme ça. Alors qui est parfois plus de l'ordre du programme ou de l'intuition, mais bon, qui est quand même, à mon avis, assez, assez fascinante, que on va se mettre à élaborer une forme d'écriture théorique, qui prendrait la forme ou qui épouserait au plus près, la forme des, de la construction, rythmique de la production de jungle, hein. Donc il y a déjà cette première opération-là, qui est importante pour situer Fisher, c'est-à-dire qu'il se situe, enfin voilà, c'est quelqu'un pour qui un certain courant de la musique populaire anglaise, la rave et ses suites, hein, ce que Simon Reynolds, que tu avais aussi évoqué, et ce qu'il nommait le continuum hardcore. Ils sont au cœur de ce continuum hardcore. Et ils prennent au sérieux un moment de cette scène, à savoir la jungle. Bon, donc déjà, Fisher vient de ce milieu-là. Et on le retrouvera dans son écriture ultérieure, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment avoir à cœur de... voilà, d'écrire notamment sur la musique, mais sur les objets culturels en général, de manière, je dirais, immanente à ces objets, hein. L'idée, c'est pas de projeter comme ça de l'extérieur des coordonnées idéologiques pour parler d'un genre, mais c'est plutôt d'essayer de trouver ce qui, dans la matérialité même, en l'occurrence du dubstep, là, t'as passé Burial, il est très connu pour un article très célèbre sur Burial, où justement, il essaye de s'intéresser à la manière dont les morceaux de Burial sont produits, et en quoi cette manière-là de produire du dubstep, on va dire comme ça, dit quelque chose des coordonnées idéologiques de sa séquence. Donc voilà, donc déjà c'est ce premier moment-là qui est important. Donc du coup, de fait, aussi via le CCRU, il a été plus ou moins lié, même si à mon avis son lien avec tout ça, et je crois qu'on va revenir dessus, est complexe, avec ce qu'on a appelé l'accélérationnisme aussi, mais ça on va en reparler, je crois, parce que Nick Land, en tout cas à l'époque, en était un des représentants ou un des principaux théoriciens. Donc déjà voilà, Fisher, il vient de ça. Ensuite, deuxième moment important, donc voilà, donc comme je disais, c'est un peu un outsider, ça c'est pas quelqu'un qui va trouver une position académique forte, hein, donc il va toujours essayer de se trouver un peu dans les périphéries de l'université anglophone, mais là où il va vraiment devenir important dans le monde anglophone, c'est quand il va se mettre à écrire via un blog, en fait, hein. Parce que finalement, entre sa thèse et le blog, il va pas écrire grand chose, en tout cas pas grand chose de publié, voire même rien, et donc il fonde ce blog K-Punk, qui va devenir en fait extrêmement important, parce que c'est un blog qui va concentrer, bon, déjà qui va s'inscrire dans une tradition très anglaise, hein, qui est celle de la critique musicale anglophone. Donc on a évoqué Simon Reynolds, mais il y a d'autres gens qui les ont précédés. C'était plutôt des gens qui écrivaient soit dans le NME, soit dans le Musical Express, et qui avaient déjà pour caractéristique d'avoir une assez grande ambition théorique, hein. D'ailleurs Fisher, je crois, l'expliquait, ou Simon Reynolds, je sais plus, j'hésite toujours en un des deux. La première fois, ils ont entendu parler d'Derrida, de tous les philosophes post-structuralistes, non pas à l'école, non pas à l'université, mais en lisant le NME, genre, je sais pas, une chronique de The Fall ou des choses comme ça. Donc là, ça c'est une deuxième chose, c'est le lieu depuis lequel Fisher écrit, qui est pas un lieu consacré, académiquement consacré, mais qui est un blog. Et c'est vrai maintenant on s'en rend plus, peut-être un peu moins compte, parce que la forme blog a un peu disparu, mais elle a été aussi centrale, quant à une certaine économie de la diffusion des idées. Il y a même un genre philosophique, hein, qui est né à peu près à un moment, ce qu'est le réalisme spéculatif, qui lui aussi est né via les blogs, Meyassou, Enco, Ray Brassier, qui était au CCRU d'ailleurs, ont pu en témoigner. Bon, et puis voilà, et en fait c'est vrai que ce blog qui est punk a une influence assez centrale, et dans ce blog il va autant parler de musique, évidemment c'est très important, d'ailleurs c'est ce que Julien a traduit, hein, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, hein, il n'y a pas tout ce qui est paru dans K-Punk, mais il y a une grande partie, donc de musique, de culture beaucoup, de littérature, de cinéma, mais aussi de politique. musique. Enfin bref, voilà, c'est une, il expérimente une nouvelle manière d'écrire. Et puis du coup, dans un deuxième temps, enfin dans un dernier temps, voilà, ce blog permet d'acquérir une certaine notoriété. Et puis bah là, il y a le Fischer qui publie finalement quoi. Donc ça commence par le réalisme capitaliste, donc qui est plutôt un texte d'intervention politique. C'est aussi, je pense qu'on reviendra dessus. Je vais pas encore élaborer ses thèses. Un deuxième texte qui est celui-là, hein, donc Spectre de ma vie. Le dernier qu'on a édité chez Son Soleil, Part de l'étranger familier, voilà. Et puis enfin, qui est punk. Donc voilà, qui est posthume. Posthume pourquoi ? Parce que Fischer se donne la mort en quelle année déjà ? J'ai oublié. En 2017, voilà. Donc ça, on pourra aussi revenir sur cette question, hein, la question de la dépression, de la santé mentale, etc., qui sont aussi des choses très importantes. Hein, parce qu'il me semble que bon, voilà, on parlera de tout ça, je pense. Enfin voilà, pour le situer biographiquement, je sais pas si j'ai oublié des choses, mais voilà, je pense qu'on a à peu près situé d'où écrit Fischer.
Bah merci beaucoup. Je pense que là on a déjà balayé pas mal de choses sur lesquelles on va revenir, que ce soit la question de l'accélérationnisme, du CCRU, du rapport à Nick Land, du rapport avec aussi du coup aujourd'hui la néo-réaction américaine, etc. Mais peut-être avant, pour continuer d'introduire, après avoir introduit Fischer, est-ce que peut-être Julien, peut-être en priorité, tu voudrais bien revenir sur la traduction de cet énorme livre et sur comment et aussi Guillaume sur l'édition, enfin d'où. Comment, qu'est-ce que c'est ce livre K-Punk et comment vous êtes passé de ce blog à cet énorme livre de 800-900 pages.
Ok, bon, merci Zoé de lancer cette question, mais si je veux être honnête, il faut d'abord que je donne la parole à Guillaume, puisque ça vient d'Audimat en fait. Bien sûr, c'est une commande. Hein, des fois, ça peut être. Il m'arrive de faire des suggestions de livres que je traduis, mais dans ce cas-là, c'est vraiment dans le sens assez classique de l'éditeur qui est venu me chercher pour faire cette traduction. Peut-être Guillaume, tu veux dire d'où ça vous est venu, et après moi je parlerai de la traduction.
Ouais, moi je voulais vraiment faire ce bouquin parce qu'en fait moi j'ai découvert Fischer à travers un article qu'il avait fait sur Drake il y a assez longtemps, je pense en 2016 peut-être par là. Et je lui avais commandé un texte inédit pour un des premiers numéros d'Audimat. Il est disparu juste après, mais du coup, c'était déjà quelqu'un qui avait pas mal d'influence sur la manière dont je faisais la maison d'édition. Et ensuite, il y a un petit groupe de lecture informelle du réalisme capitaliste qui s'était monté en plein pendant les manifs de la loi travail. Puis ça a continué un peu, je crois, période début des Gilets jaunes. Et en fait, moi, je me sentais assez mal à l'aise dans ce groupe de lecture qui était super au demeurant. Parce que tout le monde se chauffait sur le réalisme capitalisme, et pour moi c'était déjà un texte un peu à contre-temps, parce que c'est un texte qui dit que voilà, l'imaginaire est clôturé, comment réussir à nouveau imaginer des luttes sociales à un moment où en fait toute la semaine, tous les week-ends, on est en manif et émeute et tout ça. Donc en fait j'avais un peu une frustration avec ça. J'avais aussi un peu peur que ça devienne un objet de commentaire de texte philosophique. Et c'est vrai que bah moi, comme Fischer, enfin une des raisons pour lesquelles ça a résonné avec moi, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait mon éducation beaucoup par les blogs musicaux, les forums, etc. Et du coup, je voulais, c'est pour ça qu'on a sorti aussi Désir post-capitaliste, je voulais avoir le Fischer du dialogue et de la vitesse et de l'urgence et de la punchline et tout ça. Et aussi de l'ambivalence, de l'hésitation, etc. Donc c'est un bouquin où, je le dis un peu dans l'intro, il se contredit pas mal et tout. Et je trouvais ça... Je voyais déjà aussi un début, notamment en contexte britannique, de fétichisation un peu de sa pensée, de sa personne et tout. Et je me disais, le meilleur moyen de faire que ça soit un outil pour les luttes aujourd'hui, c'est de rééclater en utilisant le côté polémique et le fait que le blog partait un peu dans tous les sens, dans tous les sujets, réagissait à différents moments. Alors en fait, il y a quand même une unité sous-jacente, mais voilà, c'est un peu ça que je voulais mettre en avant.
Alors pour la traduction à proprement parler, évidemment c'est un énorme travail très très long, et c'est après les deux autres Fischer, donc le réalisme capitaliste qui est très court, qui est vraiment l'espèce de condensé de sa pensée, l'extrait un peu la quintessence à un moment qui a été faite comme ça. Je m'en suis rendu compte après, parce que moi je connaissais pas le reste de sa production. Puis de Spectre de ma vie, qui là était un peu un préalable à K-Punk, qui sont des textes qui ont été beaucoup édités. Donc Là, ce qu'on a, c'est brut. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui sort du blog. Et au début, il y a des textes sur lesquels je tombe et qui font aucun sens, où il se met à hurler contre Glastonbury. Et ça n'a ni queue ni tête, en fait. Moi, je suis là devant, je me dis, bon, il faut que je traduise vraiment ce qu'il dit. Il est en train de vitupérer. Il parle de Strongbow. En fait, tous les détails, on s'en fout. Il est devant sa télé ou je sais pas quoi, la radio. Et il déteste les gens qui voient Glastonbury. Mais je dis, bon, mais c'est quand même quelqu'un qui a une pensée par ailleurs et qui exprime une colère, donc il faut le traduire. Et j'essaie, bon, voilà, cette éthique du traducteur un peu bête, c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui met un juron, il faut que je passe 10 minutes à savoir s'il dit plutôt merde ou putain ou va mourir. Et ça peut vous faire rire, en fait, j'espère que ça vous fait rire, mais c'est vraiment ce que je fais, c'est-à-dire, je me demande vraiment c'est quoi la valeur du fuck. Et c'est pas le même. Ouais, c'est drôle, mais ça me prend du temps. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de jurons en anglais, c'est beaucoup du fuck. Et en fait, il y a des nuances de fuck, en fait. Voilà, c'est comme ça. Et moi, mon boulot, c'est de nuancer le fuck. Voilà, c'est ce que je fais. Donc il est là, et je l'imagine en plus, ça fait tellement longtemps que je passe du temps avec lui, que je le vois, parce que j'ai regardé quelques interviews, pas trop, parce que sinon je commence à m'identifier là. Mais je l'imagine en train de gueuler avec lui-même, sa bière à la main, mais c'est quoi ce truc de festival de musique en plein jour? Et je comprends rien en fait, pourquoi il s'énerve, parce que moi les festivals de musique ça me dit rien. Enfin, voilà. Et donc il faut que je me projette, il y a quasiment quelque chose que je ferai dans la traduction de fiction, c'est-à-dire qu'il faut que j'invente un peu le personnage. Parce que les écrits théoriques, enfin, ils sont jamais strictement théoriques, comme on pourrait dire la non-fiction, avec un ton académique, docte posé. Il y a toujours du jeu qui vient, il y a toujours la question du trauma de sa vie. Il y a toujours, lui, il parle toujours de quelque part et il remet toujours l'endroit d'où il parle. Donc moi, depuis le temps que je traduis Fischer, en fait, je l'ai un peu inventé dans ma tête. C'est un peu un copain à moi comme ça. J'essaie de lui parler pour dire bon, mais en fait, là, t'étais dans quel état? Et des fois, il est dans des états. Enfin, il y a quelqu'un récemment qui m'a signalé dans une vidéo, on commentait Fischer en disant ça donne envie de se tirer une balle. Et c'est pas complètement faux. Il va peut-être falloir dans quelques temps mettre des petits bandeaux sur Fischer. Attention, cette écriture peut être assez déprimante. Si on est un peu sensible, il vaut mieux le savoir avant, en parler avec des gens, être plutôt dans des groupes de lecture, parce que effectivement, il y a des moments qui sont d'un nihilisme. Simple, c'est-à-dire le type est simplement nihiliste. Il dit, bah en fait, il y a aucun espoir, et il l'exprime comme ça. Voilà. Donc moi, je fais avec. Il y a des moments un peu plus réjouissants. Bon, et voilà, il parle de musique, qui est quand même l'endroit où il s'éclate complètement. Il parle de psychédélisme, enfin ce que ça lui fait au cerveau, vraiment. Et puis il y a le fameux dernier morceau qui est donc pas dans K-Punk, qui est dans les désirs post-capitalistes, que Guillaume m'a demandé de traduire en premier pour pouvoir l'insérer à la suite. Et qui est le acide communisme. Et là, c'est vrai, je commence par ça et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il est arrivé à Marc, quoi. Parce que si vous avez lu ce texte, si vous connaissez un peu Fischer, voilà, c'est la fin de Désir post-capitaliste, c'est l'introduction à un projet. Donc tout à coup, vers la fin de sa vie, il a un truc, je m'y attendais pas, moi, je savais pas qu'il avait prévu ça. Je vais faire une théorie de l'acide communisme, c'est-à-dire, je vais repenser la question communiste à partir de l'expérience de l'acide, pour dire rapidement. L'expérience de l'acide étant l'expérience du dévoilement qu'ont vécu les hippies. Mais Mark Fisher, il déteste les hippies. Il n'y a pas plus ennemi des hippies que Mark Fisher. Mais en fait, il dit, non, mais peut-être que j'ai pas gardé la quintessence de ce qu'était la question hippie, qui était celle de franchir les catégories, de s'affranchir des catégories mentales, par notamment l'usage des psychédéliques. Bon, j'ai eu un moment de flottement. Clairement, c'était vraiment un grand plaisir de traduire ce texte, avec en plus, c'est vraiment très bien écrit et on voit que ça a été travaillé. Il y a d'autres textes qui sont beaucoup plus brouillons, comme celui sur Glastonbury, mais il y en a d'autres hein, sur les élections, où il va parler des gens qui font un débat à la télé. Bon, il y a machin, ah, on regardait au centre et bon, voilà. Et voilà, pour parler de l'expérience de la traduction avec un livre aussi gros, j'ai de la chance, c'était pas le premier. J'ai un peu construit cette persona de Mark Fisher. Que je fais aussi exister quand je le présente en public. Hein. En fait, j'essaie de raconter comment moi je le vois, qui est un point de vue très particulier que je peux avoir. Et du coup, j'essaie de faire exister sa voix, parce que pour moi, j'ai traduit par ailleurs d'autres textes de non-fiction, critique, théorie, etc. Et il n'y a jamais cette musique-là dans l'écriture. Voilà, il n'y a jamais cette aussi forte présence qu'avec Mark Fisher, et donc pour moi c'est important de toujours le rappeler et de lui permettre d'exister comme ça.
Quand tu parlais de vituperation, je veux dire que quand j'ai découvert, à titre très personnel, mais je crois que je me baladais sur le blog et j'étais tombé sur déjà son article sur Arctic Monkeys, qui pour lui représente le déclin de la civilisation occidentale. Et non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir quelqu'un passer énormément de temps sur un petit album.
Juste pour préciser, c'est pas Arctic Monkeys qui est, c'est le fait que Arctic Monkeys puisse jouer avec l'illusion du temps. C'est-à-dire qu'un morceau d'Arctic Monkeys puisse lui donner un moment de doute d'avoir été produit dans les années 80, c'est la fin. C'est la fin. Il entend Arctic Monkeys dans une galerie commerciale. Et tout à coup, il dit, est-ce que c'est un morceau des années 80? Et là, c'est fini. Ça, c'est fini, quoi. Ça veut dire que la sensation, en fait, la confiance qu'il a dans sa propre perception intuitive de la chronologie culturelle, c'est-à-dire j'entends quelque chose, je vois quelque chose, je peux le situer sur la frise du temps. Ok, je sais où je suis, il y a un avant, il y a un après, il y a un futur, il y a un progrès, et donc il peut y avoir une révolution. Mais là, tout à coup, les Arctic Monkeys, ils me la font à l'envers, et je suis, je sais plus où je suis. Et là, il explique très bien comment il détaille à partir de ça, que, bon, mais eux, ils ont joué avec les formes, ils ont fait un clip, même le clip, ils se demandent quand est-ce qu'il a été tourné, tout ça. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils démontrent qu'on ne peut pas faire confiance à la perception du temps, de la chronologie culturelle, du progrès, de la marche du progrès, ou je sais pas quoi, qu'on a comme ça spontanément. Et ben, c'est super important, en fait. Parce que, voilà, ça va être quelque chose qui se retrouve dans toutes les dimensions de sa critique politique.
Non, bien sûr, mon point, c'est de dire que ça fait un truc un peu bizarre, quoi, quand on lit ce monsieur qui semble s'être énervé sur un blog, sur un petit groupe que, bon, ben, je confesse avoir écouté à l'époque. Il a le même critique pour Amy Winehouse et les productions de Mark Ronson. J'avais été aussi très marqué à un autre point. Moi, c'est le moment où il est énervé que je trouve assez impressionnant. Mais sa haine de Sonic Youth et ses débats avec, notamment, je crois que c'est avec Reynolds, qui explique qu'il y a quand même des trucs à sauver. Il dit non, ce sont juste des petits bourgeois new-yorkais cyniques qui font du second degré, et ça, c'est pas possible, quoi, aussi. Par ailleurs. Et du coup, je voulais vous peut-être, vu qu'on est à parler de musique, peut-être vous demander de préciser un petit peu. En fait, c'est un petit peu vertigineux quand on lit ça, que ce soit sur la littérature, la musique, les films. Il y a une espèce de corpus énorme, des espèces de calottes glaciaires culturelles, un petit peu, quoi, qui sont extraites. Mais évidemment, il a pas tout vu, il a pas tout lu et pas tout entendu. Si vous pourriez circonscrire un petit peu des espèces de pistes pour nous montrer dans ce en quoi il évoluait, et peut-être plus précisément dans le cas de la musique, nous parlait de cette scène critique qu'il y a à ce moment-là, notamment avec Simon Reynolds, qui est donc on a mentionné plusieurs fois, et avec qui il y a un entretien dans le livre, et de cette particularité que ça a été de faire de la critique culturelle et musicale en particulier en Angleterre à ce moment-là.
Oui, alors bon, déjà, bon, je dirais que le corpus musical de Fisher, il y a le post-punk quand même. Bon, The Fall, etc. C'est quand même une chose extrêmement, extrêmement importante pour lui. Et puis il y a après la scène dance post-rêve britannique. Voilà. Et puis ensuite, oui, même la pop d'un point de vue général. Mais en effet, t'as raison. C'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure dans ma brève biographie. Là, il y a une vraie spécificité britannique de l'écriture critique sur la musique, c'est-à-dire cette manière de faire jouer un certain modernisme populaire, en tout cas une certaine ambition théorique depuis la culture populaire. Ça, je pense que c'est une vraie spécificité. Je crois qu'il citait Ian Penman, il me semble, qui est une référence importante pour Reynolds et pour Fisher, quoi, qui est un des premiers grands critiques anglais. Je sais plus si c'est Melody Maker ou Enemy. C'est un des deux. Des deux grandes revues critiques, je ne sais plus laquelle des deux, peut-être même les deux d'ailleurs, bon, qui est considéré comme une des premières plumes comme ça, où il arrive à parler de Derrida, en chroniquant un disque des B-52, bon, ce genre de geste. Et ça, c'est clair que c'est quelque chose qui est commun alors à Reynolds, à Fisher, mais pas uniquement à lui, hein. Il y a vraiment toute une constellation d'auteurs, d'autrices, voilà. Et c'est vrai que ça me semble être assez propre à la scène britannique, et notamment aussi dans sa capacité à influencer d'autres scènes intellectuelles en retour, parce que c'est vrai qu'on peut avoir cette impression d'avoir une critique culturelle qui se nourrit, on va dire, de la scène théorique dite officielle, et puis qu'il n'y a pas de va-et-vient. Là, justement, je vous parlais du CCRU tout à l'heure. Le CCRU, c'est un exemple type d'une scène théorique qui se déploie depuis l'université, mais qui a puisé énormément de ses racines, de ses influences du côté de la critique pop ou de la critique musicale. Donc, c'est comme ça que je pourrais définir cette spécificité. Enfin, je sais pas si Guillaume, oui.
Juste pour ajouter deux choses là-dessus. En fait, il cite des théoriciens dans le NMI à propos du post-punk, et parce que en fait dans le punk anglais historique, il y a toute une composante dans le rock déjà, puis dans le punk, il y a toute une composante qui vient des écoles d'art, ou qui où il y a Malcolm McLaren qui leur qui lit les situationnistes, qui leur dit qui dit aux Sex Pistols d'imiter tel ou tel comportement situationniste, etc. Donc c'est déjà dans la musique, et du coup la critique le prolonge, quoi. Et l'autre truc, c'est que ce qui est important, c'est que quels que soient les accords ou les désaccords esthétiques qu'on a, cette idée de modernisme populaire, en fait, à un moment donné, Fischer, il le dit. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça aussi, et je pense que c'est un truc assez ambivalent qui peut être intéressant à déconstruire, c'est qu'il y avait l'idée que la musique était fonctionnait par négativité permanente. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez, on change d'année, il y a un nouveau groupe qui arrive, et c'est plus possible d'écouter le groupe de l'année dernière, parce qu'en fait, il vient d'être explosé par la nouvelle esthétique qui vient d'arriver. Et il y a une forme de... Il n'y a pas cet éclectisme qu'on a maintenant en se disant « j'écoute un peu de tout et puis j'aime bien toutes les périodes, etc. » Il y a un peu cette idée que la musique avance et qu'il y a une esthétique qui est pertinente à un moment donné, et qu'en fait, il faut faire des choix. On peut pas aimer Birthday Party et Sugar Babes, ou je sais pas. Ça, c'est les exemples qu'il prend, mais on pourrait prendre les nôtres. Et c'est vrai que je pense que dans la critique culturelle, ça a été aussi un peu le cas en France. Par exemple, moi, quand j'ai grandi en lisant un magazine qui s'appelait Chronique Art, et ils traitaient la musique comme ça. Ils avaient un petit attachement à la pop indé, genre Suzanne Stevens, et on se disait que c'était un peu anachronique, mais sinon, en fait, on pouvait pas être ouvert à un truc s'il n'était pas nouveau, et le fait qu'il soit nouveau, ça voulait dire que le reste, les choses qui venaient avant, c'était annulé, c'était fini. Et voilà, donc ça c'est un truc, je pense, qui est important à avoir en tête.
Je pense à propos de ça, un texte de Fischer dont on parle jamais, c'est le recueil collectif qu'il a fait avec Joe Shun sur le post-punk. Parce que là, il y a toute une série d'articles où le rapport à la critique musicale est thématisé, et je crois même que la catégorie modernisme populaire, il me semble là-dedans qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment élaborée, parce qu'il considère que le post-punk est par excellence le moment moderniste dans la pop anglaise, quoi. Enfin, dans la musique populaire anglaise. Parce que oui, voilà, il y a vraiment cette idée de rejouer quelque part les avant-gardes, ou le geste des avant-gardes depuis le punk, en fait. Et donc ça, c'est ce recueil-là qui était sorti chez Repeater. J'ai plus le titre en tête, mais voilà. C'est une autre référence bibliographique. On la cite rarement, mais elle est importante.
Là, tout ce que vous avez dit un petit peu sur cette question de la nouveauté, etc., je pense que ça pose une question qui dépasse peut-être seulement le champ de la critique musicale et qui parcourt un peu toute l'œuvre de Fischer, et qui est, la question du rapport au temps. De tous ces fantômes, de tous ces spectres, ce concept d'anthologie avec un H. Donc est-ce que peut-être vous pourriez un peu revenir sur cette conception du temps, même ce que tu disais là sur les Arctic Monkeys, cette espèce d'angoisse de ne pas se retrouver dans le temps, quelle trame est-ce que ça tisse dans l'œuvre de Fischer, et peut-être dans son blog en particulier.
Chose rapidement, puis après ouais. Alors, quand Julien parlait de ça, ça me faisait penser on va commencer par là, mais ce que tu décris sur Arctic Monkeys, là, c'est Jameson, il me semble. C'est le postmodernisme qu'en gros, c'est quoi le postmoderne? Donc, c'est quoi cette période historique un peu étrange d'après la modernité, que Jameson lit d'une manière politique, hein, c'est-à-dire qu'il le prend comme logique culturelle du capitalisme tardif, donc qui serait un capitalisme finalement qui aurait été celui d'après la défaite d'une certaine séquence du mouvement ouvrier, c'est ce qu'il appelle le pastiche, il me semble, quoi. C'est-à-dire cette incapacité, justement, à s'inscrire dans une ligne historique très précise, qui serait moderne, justement, et là, on serait à une époque où, justement, on serait dans un éternel présent, en fait. C'est-à-dire où tout serait possible, où toutes les options esthétiques seraient possibles, et finalement, il y aurait une forme d'annulation. Comme ça, une lente annulation du temps et de la temporalité historique au profit d'un éternel présent qui serait le postmoderne. Enfin, moi, j'ai l'impression que la critique qu'il a, je me rappelle plus ce texte, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Alors, pour revenir sur le rapport, ça me semble complexe, cette histoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tension, quand même, dans son travail entre, cette idée de modernisme populaire. Bon, voilà, l'idée de modernité, quand même, qui est rejouée, quoi. Donc, faut aller de l'avant, quoi. Et là, ce que Reynolds défend dans son amour pour la scène rave anglaise et la musique électronique, c'est que précisément ça a été une espèce de mouvement musical populaire habité par cette volonté d'aller de l'avant systématiquement. Bon, il y a ça, et puis à côté de ça, il y a aussi l'idée d'anthologie, voilà, cette idée qu'on serait aussi à une époque historique où il y aurait c'était une espèce de rapport à la temporalité marqué par la spectralité. C'est-à-dire en fait par des matériaux du passé qui réapparaîtraient comme ça et qui se mettraient à hanter notre présent et à reconfigurer notre expérience du temps. Donc ça, il me semble que c'est une histoire assez complexe et qui est rendue d'autant plus complexe si on parle d'accélérationnisme, justement, qui est une de ses racines théoriques. Hein, qui, alors l'accélérationnisme, je ne sais pas pour le dire rapidement, c'est bon quelque chose qui, bon, c'est compliqué, hein, mais c'est quelque chose qui s'élabore via Nick Land et d'autres gens au moment du CCRU. Hein, c'est cette idée que, alors pour le CCRU, leur référence théorique, c'est Deleuze, en gros, pour le dire très vite, quoi. C'est des espèces d'hyper-deleuziens, de, voilà, ou d'ultra-deleuziens, je sais pas comment dire comme ça. Et c'est cette idée que, en accélérant les tendances immanentes au capital et au capitalisme le plus tardif, bon, finalement, il y aurait, ça serait peut-être la dernière utopie possible, quoi. Alors, je sais pas s'il le qualifie comme utopie, mais pourquoi pas. Alors, on reparlera, je pense, plus tard des dérives politiques de tout ça, parce que ça donne ce qui est devenu Nick Land, c'est-à-dire l'un des théoriciens principaux aujourd'hui de la Dark Silicon Valley, hein, et de des gens qui entourent Trump, hein. Voilà. Mais c'était pas le Nick Land du début, quoi. Hein, Nick Land du début, c'était plus un accélérationnisme de gauche. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de tension là, comme ça, assez bizarre à démêler, quoi, entre à la fois, hein, quelqu'un qui semble attaché à la catégorie de modernisme, bon, quelqu'un qui, voilà, qui en même temps semble jamesonien, et en même temps qui via la catégorie d'ontologie semble jouer avec voilà un rapport, à mon avis, une forme de déconstruction aussi, voilà, de la continuité historique. Moi, c'est comme ça que je l'expliquerai, quoi. Je sais pas s'il y a une thèse fichérienne sur le temps, justement, quoi.
Juste un petit insert, on s'était dit qu'on ferait entendre un petit peu des bouts de la traduction de Julien, et à cet endroit très précis, j'avais noté un petit quelque chose. Donc un article s'appelle « La pop est-elle morte vivante ?» le 31 janvier 2006, et il dit « Impossible d'échapper aux soupçons, ce qui explique en partie l'attrait qu'exerce actuellement l'ontologie tient à ce qu'inconsciemment, et de plus en plus consciemment, nous subodorons que quelque chose est mort. Annoncer la disparition de la pop n'a bien sûr rien de nouveau. » Et il y a de multiples raisons de se montrer sceptique quant à toute cette rhétorique de la mort et de la morbidité, notamment parce qu'elle fait la part trop belle aux valorisations vitalistes de la vie. Le fait est que rien ne meurt jamais vraiment, pas quand il s'agit de culture. À partir d'un certain point, qu'on discerne généralement que rétrospectivement, les cultures se rangent dans une voie de garage, cessent de renouveler, se sédimentent sous forme de tradition. Elles ne meurent pas, elles deviennent mortes vivantes, survivant grâce à une énergie ancienne, continuant à bouger, comme le cycliste décédé de Baudrillard, par la seule vertu de l'inertie.
Ouais, je pense que juste sur l'onde, en fait, j'essaie d'articuler avec la pop mort vivante. Mais ce que je trouve intéressant dans l'idée d'anthologie, c'est que c'est pas seulement le passé qui hante, c'est le futur du passé. Et donc, par exemple, dans Burial, on a les traces de l'utopie rave, mais qu'on revit sous une forme mélancolique, parce qu'en fait, la voix, elle est maintenant nimbée d'une atmosphère comme ça. Où en fait on a des voix pitchées qui étaient dans la jungle et puis elles sont devenues plus lointaines, etc. Et il y a deux choses à dire là-dessus, c'est que d'une part, l'anthologie c'est quand même un modèle positif qu'on peut opposer à la pop mort-vivante, parce que plutôt que de maintenir en état de vie quelque chose qui en fait ne travaille plus, en fait ne construit plus de déplacement, d'altérité, etc. L'anthologie, ça consiste à aller retrouver dans le passé des possibles qui n'ont pas été complètement actualisés. Et donc, en fait, ce qui est curieux, c'est que du coup, cette musique, par exemple, la musique de Burial, mais il parle aussi de Mplex, c'est un travail de deuil, et c'est assez proche de cette idée sur le deuil et la mélancolie, vraiment dans la psychanalyse, avec l'idée que c'est ambivalent, c'est-à-dire qu'en fait on a besoin du deuil, en fait on a besoin à un moment donné de voir des choses qui sont de voir le passé comme passé pour pouvoir passer à autre chose. Donc en fait il y a un moment nécessaire de ce genre de musique pour par exemple éviter d'avoir des morceaux comme c'est le cas maintenant qui sont des pastiches de la rêve de 92, et on est censé faire un grand sourire et trouver ça hyper joyeux, comme si il y a pas 20 ans ou 30 ans qui s'étaient passés entre temps, et comme si comment dire, collectivement, on n'avait pas traversé d'autres choses depuis. Et donc il y a une nécessité du deuil, mais il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'en fait l'anthologie, c'est un concept emprunté à Derrida. Et en fait, Derrida, quand il parle de l'anthologie, il dit que le fantôme, il se manifeste, comment dire, ce qui est perdu. Le fantôme, c'est la manifestation d'un être perdu, mais en fait, comme fantôme, il n'existe que dans sa première apparition. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'objet perdu. il n'y a pas vraiment eu d'utopie rêve qu'on a perdu, c'était toujours une promesse latente. Et du coup, on est en train, quand on fouille le passé et les promesses du passé comme ça, on est en train de les inventer et presque de les rencontrer pour la première fois. C'est-à-dire que, en fait, pour le dire de manière caricaturale, et en fait, il y a quelqu'un avec qui dialoguait Fischer, qui est Jeremy Gilbert, qui dit, on a toujours surestimé les rêves partis, la communauté, etc. C'était toujours traversé par des tendances contradictoires. Et du coup, le fait de se replonger là-dedans sous le mode de la mélancolie, c'est aussi sous le mode de l'anthologie, c'est reconnaître que ces promesses, elles restent complètement à construire et à faire. Et je pense que c'est comment dire, en fait, c'est assez libérateur par rapport à ce que tu disais aussi au départ sur le côté et ce que tu disais aussi sur le côté nihiliste ou décliniste de Fischer dans son rapport aux promesses, au futur du passé et à des choses comme ça. Je trouve qu'il nous libère plutôt d'une forme de comment dire, de fatalité de la modernité, comme s'il fallait qu'il y avait eu du nouveau, qu'on avait du mal à faire encore du nouveau, comment est-ce qu'on va réussir à encore faire du nouveau. Et en fait, il nous dit, en fait, qu'il n'y a aucun moment de l'histoire qui était garanti comme un moment révolutionnaire, comme un moment politique qui réalisait des possibles. En fait, il y a une espèce d'histoire comme ça qui fonctionne par cycle de potentiel qui se lèvent et qui disparaissent et qui sont jamais complètement actualisés. Et donc, du coup, plutôt que d'être sur le mode du regret ou du pastiche, de la répétition d'un passé qui aurait été idéal, et ben en fait on a les musiques qui sont comme ça un peu réflexives, qui ont conscience de leur rapport au passé d'une certaine manière, elles nous permettent d'éviter par exemple d'avoir des formes de futurisme naïf.
Oui, alors je veux revenir sur justement le lien, je voulais compléter ça sur l'idée un peu générale que j'ai découvert chez Fischer ou qui me semble déceler, c'est cette idée qui refuse radicalement l'ironie comme lecture des formes culturelles. C'est-à-dire, pourquoi on peut pas écouter en même temps Stockhausen et Jules? Aucune raison de dire, on peut pas le faire. On est là, je peux le faire, quelqu'un peut le faire. Mais dans une lecture dialectique, ou dans une lecture dans laquelle la flèche du temps reste active, c'est-à-dire que la possibilité d'une dialectique interne aux formes culturelles n'est pas invalidée, donc en gros on n'est pas dans une équivalence générale ou dans un présent figé, revenir sur ce qui est passé, donc faire du poste, ce n'est pas se moquer ou ironiser parce que tout se vaut et que je peux faire du poste n'importe quoi. Le geste post-punk, il est la ressaisie du punk au sérieux, c'est-à-dire c'est le punk au carré qui se prend lui-même comme punk. Et c'est ça, à mon avis, qui se joue à chaque fois chez Fischer, c'est-à-dire qu'il refuse la prémisse de « on sait très bien que tout ça n'est que parodie ». C'était, il n'utilisera jamais le terme de « like ».« It's like ». Cette prééminence de ce petit mot en anglais du « like », qui est vraiment le marqueur d'une perception du présent et qui s'immisce partout sans qu'on le sache. Je crois que Fischer, c'était vraiment quelqu'un qui ne pouvait pas accepter qu'on utilise ce comparatif entre la perception et la réalité. Donc, en un sens, il peut être très chiant parce que il prend les choses au sérieux et on a envie de lui dire, mais t'es un vieux con. C'est ce que font aussi les vieux cons. Sauf que, il essaye de le faire dans son geste à lui. C'est-à-dire, ça s'est fait de prendre les choses du passé au sérieux. Ça s'est fait au moment du modernisme, qui visitait des formes anciennes et qui cherchait à les ressaisir. Donc, il continue à vouloir faire ça. Et bien sûr, on peut rejeter ce geste. Le postmodernisme, évidemment, le désingue dès le départ. Donc, voilà. Il me semblait important de dire qu'il y avait cette espèce de geste général et que jamais il ne prendra de distance. Et parfois, il aborde des choses qui peuvent être carrément gênantes. Où on dit, mais enfin, il prend ça vraiment au sérieux. Les Sleaford Mods, bon, on a envie de lui dire, écoute, c'est un peu embarrassant. Mais en fait, quand on va jusqu'au bout et qu'on comprend le geste, on dit, ah oui, du coup, on peut aborder n'importe quoi. Si on tient, je sais pas, quelque chose qui relève d'une éthique, en fait, de la façon d'aborder la question, l'objet culturel. Et si on fait pas l'effort de le suivre et de lui faire confiance, on peut très rapidement en trouver que c'est un vieux con, à juste titre, et passer à autre chose. Mais, voilà, j'ai peut-être la chance, moi, d'avoir un énorme panorama et de me dire, waouh, d'être un peu impressionné, et je l'étais pas au départ. Hein. Au départ, par exemple, si je lis certains textes sur les élections, je suis absolument sous-impressionné. C'est-à-dire, le type, il est en train de commenter des débats télévisés. Quelle que soit l'intelligence de la lecture, elle ne peut être que... Enfin, elle se sabote elle-même, puisqu'il parle de quelque chose qui est nul et non avenu. Mais en même temps, quand je le colle avec la façon qu'il a d'aborder Burial ou, par exemple, de lire Shining, c'est dans Shining qu'il va vraiment développer sa question de l'anthologie. Et là, moi, ça me fait un peu un effet psychédélique de lire son analyse de Shining. Je vous recommande de prendre ce texte-là, si je peux vous faire une petite présélection, où il se pose la question de qu'est-ce qui se passe pour le personnage de Jack Nicholson, dans quoi il est pris, qu'est-ce que c'est que ce fantôme qui vient, qui repart, qu'il ne peut pas chasser. Et il fait la comparaison en plus extrêmement intéressante entre le film et le roman. Et il dit, ah mais il y a des choses absentes dans le film qui sont dans le roman, et il fait dialoguer les deux, etc. Et l'air de rien, cette écriture en fragments est vraiment fascinante. Et là, on trouve, je pense, un peu ce que je dis sur l'idée méta, il prend vraiment les choses au sérieux. Voilà.
Oui, pour poursuivre peut-être un peu cette exploration du panorama des concepts de Fischer, est-ce qu'on pourrait quand même revenir sur du coup peut-être le seul réel concept de Fischer, ou en tout cas ce qui donne le titre à sa seule œuvre publiée, c'est-à-dire le réalisme capitaliste. Est-ce que, enfin aussi peut-être dans ce dialogue avec la question des fantômes, des spectres, des choses qui a priori n'existe pas ou n'existe pas de la même manière. Vous pourriez revenir sur qu'est-ce que c'est que ce réalisme capitaliste ou ce réel du capital. Ou... Enfin, j'ai essayé de chercher dans K-Punk des petits extrêmes. Il y avait rien de très concluant, mais juste cette toute petite phrase. Le réalisme n'a rien à voir avec le réel. Au contraire, le réel est ce que le réalisme doit perpétuellement réprimer. Voilà. Donc, qu'est-ce que
Oui, un tout petit truc, parce que c'est vrai que pour reprendre ce truc qu'on disait des notions en travail, quoi, là c'est un petit peu compliqué, même dans le bouquin, c'est déceptif à cet endroit-là, quoi, c'est-à-dire qu'il déplie quelque chose qui semble relativement clair, mais on se retrouve avec un concept, si on veut, qui est assez large, c'est-à-dire qu'à la fin, est-ce que c'est une idéologie? Est-ce que c'est une tactique discursive des militants du capital? Est-ce que c'est un état culturel? Est-ce que ça veut dire que, enfin, est-ce que c'est une condition des mouvements sociaux? Est-ce que c'est un affect global? C'est donc là, Zoé mentionnait un extrait qui semblait un petit peu lacanien dans certains sens. À un moment, il parle de Badiou aussi et de cette idée de la restauration qui me semblait intéressante. Voilà. Bon, en gros, où est-ce que vous le situez, vous, un petit peu ce syntagme qui est assez important et qui revient tout au long des écrits, quoi.
Bah moi, ouais, je pense que, comment dire, il y a une interview, donc du coup il revient sur le concept. C'est vrai que du coup ses réponses sont pas très conceptuelles, mais du coup elles sont agréables à lire. Et en fait, bah moi j'ai l'impression que c'est un montage bizarre. Mais c'est ça que j'aime bien chez Fischer, c'est qu'en fait il cherche pas du tout à produire une théorie systématique. Du coup il a lu, je pense, Spinoza et Lacan, ou sans doute Lacan via Zizek. Voilà, il se dit bah j'aime bien cette idée que en fait, le réalisme capitaliste, c'est une forme d'impuissance. C'est une forme d'impuissance vécue. Donc, c'est un affect au sens qui peut rejoindre des théories spinozistes sur ce qui n'augmente pas la capacité vitale. Mais lui, en fait, il fait un croisement avec la dimension vraiment politique globale de ça, en se disant que, en fait, le système politique du capitalisme a besoin. En fait, c'est quand même un truc qui est très présent chez Fischer, c'est qu'en fait, la question, c'est la production des affects, et donc il y a le capitalisme pour lui. Par exemple, c'est curieux, le réalisme capitaliste pour lui a besoin de produire des formes de résignation et d'impuissance. On pourrait se dire, bah non, le capitaliste a besoin de produire de la joie et du désir. Voilà, bon, bah lui, c'est pas trop son option dans l'idée du réalisme capitaliste. Donc il y a une dimension comme ça affective qui participe d'un système idéologique d'ensemble, mais du coup, c'est une lecture très affective, psycho-affective de l'idéologie. Et aussi, il y a cette dimension lacanienne. Et là, je pense que c'est beaucoup plus lié à un rapport à l'histoire du communisme et à l'utopie, à la question de l'utopie, c'est-à-dire que en fait, dans le communisme, il y a une dimension d'irreprésentable. C'est quelque chose que, comment dire, qu'il faut pouvoir faire advenir, mais qui n'a jamais eu lieu. Et à la place de ça, et ce serait, en fait, le jour où le communisme se réaliserait, c'est comme si on aurait déchiré un peu l'interface entre l'idéologie et le réel au sens profond, c'est-à-dire. Et donc, le travail du capitaliste, c'est un travail qui consiste en permanence à remplacer ce qui serait la vraie vue des rapports sociaux, l'aliénation, l'exploitation, etc., par des formes de rapports mis à l'envers, le fétichisme de la marchandise, voilà. C'est pas ma spécialité, c'est plutôt toi le philosophe, mais moi, en tout cas, je vois qu'il y a les deux dimensions dans le concept de réalisme capitaliste, et je trouve qu'il les nomme un peu, de manière un peu désinvolte comme ça, mais c'est un peu ça, non?
C'est pas systématisé, je pense. Bon, parce qu'on peut aussi en faire une lecture plus marxiste. Au sens, c'est l'idéologie, quoi. C'est l'idéologie du capitalisme tardif. C'est-à-dire qu'en gros, il y aurait pas c'est une clôture, quoi. Enfin, le capitalisme, il s'est clôturé sur lui-même et il n'y a pas d'extériorité possible. Et par là, il nomme un certain état de conscience, on pourrait dire d'imaginaire social, en fait, tout simplement, d'une certaine époque du capitalisme aussi. Et en cela, il serait jamesonien aussi, je dirais. Voilà. Mais en effet, tout ce que tu décris, je pense qu'il tourne un peu autour de tout ça. À mon avis aussi, peut-être la méprise, enfin, moi c'est un peu mon avis sur ce texte, c'est qu'à mon avis c'est un texte d'intervention, et à mon avis je sais pas si on a, en faire une lecture systématique, je suis pas sûr que, enfin voilà, ça soit si, enfin voilà, à mon avis c'est vraiment un texte d'intervention, peut-être qu'on a voulu lui faire dire trop de choses à ce texte à mon avis, enfin moi c'est un peu ma position, après voilà, c'est pas ce que je préfère chez Fischer, clairement. Donc c'est pour ça qu'en fait on tourne finalement autour de la chose et puis finalement en fait on se rend compte qu'il va surtout puiser plein de trucs chez plein d'autres auteurs. Il essaye de faire un petit bricolage pour nommer un peu là où on en était dans les années 2000, une certaine forme de déprime historique en fait, tout simplement, quoi, je pense.
Du coup, là, on a, au fur et à mesure de cette discussion, on a quand même déplié un certain corpus de références, donc Derrida, Deleuze, Lacan, lui par Gizek, Jameson, en effet, qui revient beaucoup, qui crée une espèce de théorie. Alors, c'est tentant d'appeler, je suis pas expert de l'histoire des idées en Angleterre, mais c'est limite là aussi d'entendre parler de French Theory dans le sens de penseur français remédié par une lecture anglo-saxonne. Mais à la lecture, là aussi, peut-être préciser quand même que ça bouge beaucoup, on sent, et puis vu que le recueil est constitué autour de faisceaux thématiques, en fait, on a plusieurs avancées dans le temps successives, mais on voit que les choses évoluent beaucoup, et puis après, Désir post-capitaliste, qui serait un peu la dernière chose qu'il a faite, enfin, vu que c'est la transcription du séminaire qu'il tenait jusqu'au moment où il s'est donné la mort, avec Asit Communisme, et on sent qu'il bouge un peu, bon, mais bref, j'arrive avec mon gros point. On n'a pas encore parlé de Marx ou à la marge, quoi. Et à un certain endroit, on peut avoir l'impression que Fischer est ce qu'on appelle maintenant un réductionniste de classe, quoi. Qu'en fait, il dit que dans les années 2000, il y a tous ces mouvements post-gauche ou nouvelle gauche, mais qu'au fond, on oublie un petit peu trop la classe. Il y a quand même des endroits où il dit vraiment que le sujet minorité ou le sujet minorisé, ça commence à l'agacer. Bah, en gros, qu'en est-il en fait d'affirmer cette primauté de la classe dans un moment où l'hypothèse communiste a l'air d'être défaite ou que lui considère comme défaite au moins sur le plan affectif, et quel est son rapport un peu à ce corpus théorique marxien, marxiste?
Bah oui, pour embrayer, Marc Fischer a une sorte de positionnement qui tente de faire tenir ensemble, on peut dire, Deleuze et Guattari et Marx. Et donc, je vais vous lire un petit extrait qui expose assez clairement ce que Enzo vient de dire, mais avec les mots de Fischer. Nous n'avons pas à choisir entre politique de classe et anti-autoritarisme, pas plus qu'il ne nous faudrait choisir entre Gramsci, Deleuze ou Guattari, entre une approche hégémonique et une politique du désir. En fait, si nous voulons réussir, nous devons absolument dénoncer cette fausse alternative. La politique de classe doit être renouvelée et relancée, pas simplement ravivée comme s'il ne s'était rien passé. Il nous faut prendre les institutions au sérieux dans une perspective gramscienne. Et un peu plus loin, il ajoute: mais si nous définissons plus négativement par notre opposition au capital, quel sera le nom de notre projet positif? Je ne pense pas que le vieux signifiant de communisme puisse être ravivé à cette fin. Il est irrémédiablement entaché par de terribles associations associées à tout jamais au cauchemar du XXe siècle. Pour l'heure, notre désir est sans nom, mais il est réel. Notre désir est tourné vers l'avenir, il est désir d'échapper aux plaintes désolées du capital et à ses répétitions infinies, et ce désir vient de l'avenir. De cet avenir même où de nouveaux désirs, de nouvelles perceptions et cognitions sont à nouveau possibles. Pour l'heure, nous ne pouvons qu'entreapercevoir furtivement cet avenir, mais il nous revient de le construire, alors même qu'à un autre niveau, il nous construit déjà, un nouveau genre d'agent collectif, une possibilité nouvelle de parler à la première personne du pluriel. Au cours de ce processus, le nom de notre nouveau désir apparaîtra et nous le reconnaîtrons. Peut-être déjà, on peut quand même commencer par quelques questions. Enfin, comment, parce que moi, il y a quelque chose que je trouve toujours un petit peu, où d'un côté, à plein de droits, Fichard est très séduisant dans ce qu'il dit et dans ce qu'il propose. Et donc, on pourrait presque croire que, dans des textes comme celui-là, que c'est une pensée presque optimiste. Et il est très critique de la gauche. Ça aussi, j'aimerais qu'on y revienne plus tard. Mais peut-être pour commencer, lorsqu'il dit nous devons dénoncer cette fausse alternative et lorsqu'il tente de faire tenir ensemble ces deux héritages qui, a priori, ne se rejoignent pas toujours, qui sont celui de la question de la classe et l'héritage donc de la French Theory, de Deleuze et Guattari, etc., dans quelque chose qui convoque aussi, je pense, le freudo-marxisme, où Deleuze et Guattari ont tenté de penser déjà les liens entre politique et désir, mais il me semble que la différence peut-être qui apparaît avec le freudo-marxisme, et notamment Jameson, qui est sans doute plus clairement freudo-marxiste que Fischer, c'est donc cette prise en considération de la question de la classe posée de manière qui reste marxiste. Et donc, bref, est-ce que, d'après vous, Fischer parvient effectivement à sortir de cette fausse alternative qu'il dénonce ?
Moi, c'est ça que j'aime bien. Comment dire ? En fait, je le prendrais pas du tout par la théorie, mais je pense par l'histoire des luttes. Quelle lutte intéressante a pas été en même temps et par son point de départ, c'est pas d'abord construite autour d'une identité de classe, par exemple, même dans un sens diffus, hein, pas on est là, enfin on va s'appeler classe populaire ou prolétaire, mais je sais pas, que ça soit des luttes autonomes, on va prendre des trucs récemment, les gilets jaunes, c'est des choses où il y a un contenu de classe qui est souvent pas clair. Mais qui est effectif. Et en même temps, c'est des processus d'altérisation. C'est-à-dire, les gens se transforment et se désidentifient. Ils disent pas, par exemple, on est gilets jaunes. Enfin, dans les manifs gilets jaunes, les gens arrivaient comme, nous, voilà, on travaille tous les jours, on veut être reconnu pour notre statut de bon travailleur, etc. Et puis, à la fin, c'était beaucoup plus sur un rapport où on en a marre d'être géré. On en a marre qu'on colonise notre vie quotidienne, que tous nos désirs soient canalisés à l'avance. Enfin, ça bougeait en tout cas. Et pour moi, ça rejoint la question du rapport entre classe et autres types de catégories sociales, racisme, sexisme, etc. En fait, ce qui embête Fischer, c'est l'idée que la fin de la lutte, c'est l'auto-reconnaissance à partir d'une catégorie sociale figée. Que ce soit en tant que femme ou autre, mais par contre, il exclut pas du tout que ça soit un point de départ. Et ce qu'il met en avant, c'est ce que les queers, la théorie queer appelle la désidentification, c'est-à-dire qu'en fait, on part du rapport de domination et on cherche en l'abolissant à devenir autre collectivement. Et ce que Marx appelait la négation, comment on dit, vous connaissez mieux que moi, Marx. Mais... la négation, enfin, en gros, il faut que la classe s'abolisse elle-même dans la lutte, quoi. Enfin, c'est-à-dire que le but d'une lutte ouvrière, c'est pas de finir ouvrier validé par un meilleur salaire à la fin de la lutte. C'est qu'il n'y ait plus de classe. C'est une société sans classe. Donc, pour moi, en fait, comment dire, je me demande, est-ce qu'il y a que à l'intérieur de la théorie, finalement, qu'il y a une opposition entre la dimension du désir et la dimension plus sociale, des catégories sociales, etc. Ou en tout cas, moi, je suis assez reconnaissant d'aborder, alors, il le fait pas à partir des luttes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait à partir de la culture. Et pourquoi il le fait à partir de la culture? Parce qu'il est prolo à la base. Et comme toute personne qui a grandi dans les milieux de classe populaire, tu sais que ton but, c'est pas qu'on te dise, ah oui, t'es un bon gars, bien de chez nous, etc. En fait, t'es attaché à ça, t'as pas envie de perdre ce truc-là. Mais ce qui te plaît dans la culture, c'est la dimension un peu... alors lui, il aurait dit aristocratique, mais on peut dire la dimension glamour, la dimension de désidentification, c'est-à-dire j'ai envie de rêver bien au-delà de mon quotidien, j'ai pas envie qu'on me dise « Ah ouais !» Et c'est pour ça que Clifford Mode, c'est un peu bizarre, parce que tout d'un coup, à la fin de ses exemples, il est là genre « Ah ouais, c'est cool, lui, il a un bon accent de chez moi, il parle bien de nos réalités, etc. » Bah, c'est hyper intéressant d'avoir cette dimension, surtout à un moment où elle est exclue de l'espace public et... et donc, il y a plein de moments où il est sur une politique culturelle de classe, en disant il y a un tel effacement de la logique de classe dans la culture que c'est un moment intéressant de la faire valoir. Mais par contre, ce que lui a appris la jungle, c'est qu'en fait le but, c'est de pas savoir ce qu'on peut devenir. Et voilà. Et je, en fait, du point de vue de l'expérience vécue, que ça soit à titre voilà existentiel ou du point de vue des luttes, je vois pas pourquoi il y aurait besoin de choisir. Et je me demande même si l'un est pas un moment de l'autre.
Non, moi je me demandais aussi, tout simplement, peut-être la difficulté qu'on a, c'était aussi que c'était une œuvre qui était un peu en chantier, enfin qui s'est terminée tôt, il s'est suicidé finalement, et donc finalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses en chantier chez lui qu'il n'a pas forcément eu le temps d'élaborer, quoi. Et d'ailleurs, quand tu parles de la fin d'Acide Communism, ce qu'il était en train d'élaborer au moment de son suicide était à mon avis particulièrement fécond et était peut-être vraiment profondément original, parce que sinon, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que c'est plutôt collage de pas mal de choses. Enfin, moi, je le redis, je ne considère pas que son point fort, ça soit la théorie politique, hein, vraiment pas.
Ça rejoint la double question que je voulais poser, donc la première qui était un peu en réaction à ce que tu disais, qui serait plutôt sur la... Enfin, est-ce qu'il y a une pertinence stratégique de la pensée politique de Mark Fisher ? Premier point. Et le deuxième point, c'était peut-être pour aller dans, tirer dans vers un autre endroit cette question du rapport entre la politique et le désir et la question du rapport à la psychanalyse. C'était sur cette question qui est quand même elle aussi omniprésente chez Fisher, qui est la question de la dépression. Et donc, est-ce que vous pourriez un peu revenir sur la façon dont tout ça s'articule? Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, enfin, contrairement, par exemple, à Deleuze et Guattari, la pensée Fisher, elle vise pas du tout à constituer un système, ni même un anti-système, et elle part aussi, justement, beaucoup de l'expérience vécue. Et je pense que c'est aussi sur ça que tu revenais dans ces questions, ces textes qui sont un peu absurdes, ou juste ils s'énervent, etc. Mais est-ce que donc cette expérience vécue de la dépression, bon, qui est omniprésente surtout dans Spectre de ma vie, etc. Est-ce que à cet endroit-là, pour le coup, il n'y a pas une pertinence stratégique de Fisher sur la question du lien entre la politique et la dépression ?
Je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais c'est vrai qu'on peut dire que éventuellement la dépression est la modalité par laquelle l'impossibilité d'un rapport positif à l'appartenance de classe peut être vécue. Et moi, je trouve que le geste stratégique éventuel qu'on peut trouver chez Fisher, c'est évidemment pas une réponse, c'est pas un système, ça a été dit, mais c'est d'accepter de partir des conditions contradictoires qui sont celles d'un désir théorique, c'est-à-dire d'un désir de faire théorie et d'un désir de désir. Et que les deux ne puissent pas forcément s'amalgamer, donc face patchwork, face même faiblesse. Et on peut le voir, enfin, on peut exposer des choses qui nous semblent assez faible. On n'est pas revenu sur ce qu'il pense de la gauche, pourquoi il parle de la gauche. Personne n'a dit qu'il détestait les anarchistes, par exemple. Si je le dis, qu'est-ce qui va se passer? Il dit le problème d'un mouvement social, c'est les anarchistes. Pourquoi? Parce que, en fait, il impute aux anarchistes un fétichisme de la forme et donc une perte de puissance. C'est quelque chose qu'on a retrouvé chez d'autres gens, la question de la perte de la puissance et le sacrifice de certaines dimensions au profit d'autres qui sont l'efficacité. Mais en fait, bon, la question de l'efficacité, de la réussite, de la puissance sont elles-mêmes pensées dans des catégories capitalistes. Ce que je trouve intéressant comme geste stratégique, pour le redire, c'est ça, c'est d'accepter que à partir des modalités vécues d'une situation contradictoire, qui est donc par exemple l'appartenance de classe qui ne peut pas se positiver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas désirer que la classe s'affirme pour elle-même. Sinon, il faut qu'elle s'abolisse dans le même mouvement. Bon, là, je parle un peu à la théorie communiste, mais tout le monde aura peut-être senti cette influence. Voilà, pour abolir l'ensemble des classes sociales, il faut se nier aussi. Bon, et ça ressemble quand même beaucoup à vivre la dépression, c'est-à-dire qu'il faut se nier comme sujet pour pouvoir comprendre quelque chose du réel. Comme si on n'était pas là en même temps qu'on comprend ce qui nous entoure. Je reviens sur un livre qui n'est pas présent sur la table, qui est celui qui s'intitule en français « Par-delà, étrange et familier ». Et je reparle encore comme traducteur parce qu'il s'appelle en anglais « The weird and the eerie », qui sont deux mots qui désignent l'étrange. Dans « weird », on connaît, parce qu'en français, on dit « ah, ça c'est weird », etc. C'est un mot qu'on sait accaparer dans le français actuel. « Eerie » moins, mais ce sont deux mots qui désignent l'étrange, c'est-à-dire ce qui n'est pas à sa place. Mais c'est deux modalités de l'être pas à sa place, c'est-à-dire du décalé par rapport à ce qui doit être là. Mais les deux ont une composante qu'on n'arrive pas à traduire en français. J'ai vraiment buté sur cette question dans la traduction, et je crois que ça rejoint là le point, c'est la question de désigner un futur. Dans « weird », qui a une racine germanique, on parle de ce qui pourrait devenir, de ce qui pourrait advenir, donc de ce qui se présentera. Il n'y a rien dans le, à ma connaissance, et j'ai beaucoup réfléchi, donc peut-être que ce soit révélation, mais il n'y a rien dans le lexique français qui me permet à la fois de parler de ce qui est étrange, donc de ce qui n'est pas cohérent dans, dans une horizontalité, et à la fois de ce qui est étrange dans l'axe synchronique, c'est-à-dire du temps. Voilà. Je n'arrive pas à traduire les deux dimensions. D'où le titre, où il y a cette petite astuce du par-delà. Et le par-delà vient signifier en fait le mouvement pour dire, ben, en fait, quand il utilise weird et eerie, il parle non seulement du présent, mais il parle de, du décalage entre le présent et le futur. Donc, pour revenir à la question stratégique, ben, c'est d'accepter cette weirdness, cette bizarrerie, étrangeté, voilà, toute façon de traduire ces questions de weird et eerie, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas boucler. Lui, il sait déjà, à mon avis, quand il commence à écrire et qu'il se pose des questions théoriques qui sont jamais autonomisées. Et moi, je pense qu'il aurait jamais écrit Acide de communisme. Je pense que c'était vraiment impossible pour lui de mener à bout un projet aussi ambitieux et systématique. Je ne vais pas jusqu'à dire que ça l'a flingué, mais je me dis, mais comment il aurait pu, sachant tout ce qu'il a fait avant et sa façon de suivre des fils très sensibles et pas du tout systématiques, comment il aurait pu mener à bien un tel projet? Voilà. Donc, c'est ça que je voulais répondre sur la question de la stratégie, c'est-à-dire accepter qu'on ne soit qu'à un certain moment, non pas produire une vérité qui serait ou un système et vérité étant discutable, mais qui pourrait avoir un efficace. Parce qu'on a la formulation et la critique juste, alors on produit une certaine dissolution des conditions existantes, mais simplement amalgamer des choses qui, chacune, possèdent leur propre puissance.
Oui, bah, du coup, pour rebondir à la fois sur ce que tu disais sur la critique de la gauche et sur cette question de la puissance, Fischer, comme Jameson d'ailleurs, c'est vraiment des penseurs critiques qui se définissent peut-être comme des critiques culturelles plus que comme des philosophes. Enfin, en tout cas, dans le cas de Fischer, c'est certain. Et donc il y a cette critique, donc critique de la culture comme fonction critique, aussi bah, critique du libéralisme, etc. Et aussi, moi je voulais revenir sur cette critique de la gauche dont on a un peu parlé et qui touche donc bon, non seulement il déteste les anarchistes, mais il est aussi critique donc de la gauche institutionnelle, etc. Précisément par rapport aussi à cette question du pouvoir et de la puissance, même si sans doute qu'il reproche pas exactement. Il ne reproche pas exactement sur les mêmes modalités qu'aux anarchistes. Mais donc, je voulais lire un petit extrait donc de Désir post-capitaliste, dans lequel il cite Wendy Brown, qui parle de Nietzsche et qui utilise Nietzsche pour montrer que les façons dont certaines composantes du désir de gauche sont mobilisées a pour résultat que les identités se trouvent définies par une forme de blessure fondamentale. Et en fait, il critique cette espèce de peur du pouvoir. Dès lors que le pouvoir est identifié comme quelque chose d'implacable et de dominateur, il devient quelque chose dont la gauche doit se tenir à distance par peur d'être récupérée ou de se compromettre. Donc l'idée est la suivante. Le pouvoir lui-même est pathologique. Détenir le pouvoir, c'est être par là même intrinsèquement oppressif. Donc il vaut mieux être du côté de la blessure, il vaut mieux être blessé, abject, parce que comme ça vous ne détenez aucun pouvoir. Cela revient à bien des égards le nom d'un désir impossible. Donc bon, je pense que Fischer lui-même a beaucoup évolué sur ces questions et je pense que c'est toujours une critique très difficile à exprimer de manière fine parce qu'elle peut aussi tomber dans de multiples travers. Donc il y a cette première, je voulais revenir sur ce premier aspect de la critique de la gauche et le deuxième aspect qui peut rejoindre à certains égards la critique qui était déjà formulée par Boltanski et Chiappello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, même si Fischer, pareil, le fait de manière un petit peu différente, mais qui est la critique de la façon dont les outils théoriques, intellectuels et culturels de la gauche au sens très large, mais non seulement de la gauche dite modérée, mais aussi de la gauche révolutionnaire, se sont trouvés captés par le capital, on peut dire. Dans la série documentaire récente All Watched Over by Matron of Living Grace, Adam Curtis affirme que les discours d'auto-organisation, autrefois associés à la contre-culture, ont été dorénavant métabolisés par l'idéologie dominante. La hiérarchie, c'était mal, les réseaux, c'était bien. L'organisation elle-même était à la fois oppressante et inefficace. Et donc cela alimente le cadre idéologique que j'ai nommé réalisme capitaliste. Le changement systémique ne peut jamais advenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est tirer le meilleur du capitalisme. Bon, ça rejoint aussi le point vers lequel on va tendre, qui est à nouveau cette question de l'accélérationnisme et de la façon dont l'accélérationnisme lui-même est aujourd'hui, sert aujourd'hui un accélérationnisme de droite. Bref, est-ce que la critique que formule Fischer de la gauche, elle vous semble pertinente? Et est-ce qu'elle vous semble utile et actuelle?
En fait, comment dire, ça dépend des... En fait, il y a un moment... En fait, là, je pense qu'il faut vraiment le faire redescendre. En fait, il vient des cultural studies. Donc, dans les cultural studies, même si... Enfin, il vient de Deleuze et des cultural studies, c'est un peu compliqué. Mais dans les cultural studies, on pense par conjoncture. Et donc, effectivement, on n'est pas toujours très systématique. Donc, il réagit à la conjoncture. La conjoncture, c'est pourquoi le New Labour est un... Donc, le Parti Socialiste, l'équivalent du Parti Socialiste en Angleterre, est un parti néolibéral, voilà... qu'est-ce qu'on devrait avoir à la place si on est social-démocrate? Voilà, ça, il a un moment comme ça en tout cas. Et en fait, c'était déjà la réflexion de Stuart Hall dans les Cultural Studies, qui consistait à dire, en fait, c'est possible d'avoir un autre projet social-démocrate qui impliquerait des choses beaucoup plus radicales, qui seraient nourries par les mouvements sociaux, etc. Ça correspond un peu à l'espèce de bordel qu'est la France insoumise aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est un truc. C'est une de ces orientations, quoi. Le truc sur le rapport au, pouvoir, je pense que c'est intéressant de le penser en, deux termes. C'est, si vous avez été dans des luttes, des mouvements sociaux, etc., vous, quand même, c'est important de dire qu'à un moment donné, enfin, il n'y a pas non plus des tonnes de gens qui travaillent de manière intellectuelle sur la psychodynamique des groupes, quoi, et le fait qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui se jouent entre volonté de entre des gens qui ont une volonté de pouvoir, une volonté de puissance, des gens qui veulent absolument éviter d'être dans des positions de responsabilité. Et pour moi, il le prend à un niveau un petit peu général à travers Wendy Brand, mais c'est aussi un outil, enfin c'est aussi un début de réflexion intéressant à ce niveau-là. En fait, si on veut pas du pouvoir, qu'est-ce qui se passe politiquement dans un groupe, et puis comment ça nous empêche comment c'est générateur de désaccord. C'est pas, il n'en parle pas explicitement, mais ça peut être pris à cette échelle. Ça peut être aussi pris à son échelle personnelle, dans le sens où la dépression et l'attachement à la blessure, c'est-à-dire le fait de se dire, comment dire, il y a toujours cette question dans le rapport à l'expérience de la dépression, de se dire, on projette sur nous le fait de s'enfermer là-dedans. Et lui, en fait, il est bien placé pour savoir qu'il y a quelque chose qui le dépasse, qui fait que il passe par des moments où il peut, voilà, il est très mal. Et donc, du coup, c'est comme si je me demande dans quelle mesure il essaie pas de déplacer au niveau politique la question de genre comment on sort d'une forme de paralysie entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais une forme en tout cas de d'empêchement ou d'impuissance, etc. Bon, voilà, ça c'est pour ce côté-là. Je pense qu'il nomme très tôt la question qu'il appelle hémopolitique, qui est vraiment la conjoncture de maintenant, qui est de dire, en fait, on va peut-être arrêter d'avoir uniquement des arguments rationnels pour dire votre intérêt de classe, c'est de voter pour tel truc ou tel truc, parce qu'en fait, il y a des enjeux d'identification, de fait de parler librement, d'avoir l'air de donner de la puissance dans le discours, etc. Et ça, l'extrême droite le fait très bien. Et en gros, du coup, les partis qui mobilisent sur le fait d'avoir des gens qui ont l'impression de faire ce qu'ils veulent, et d'être libre, et que la gauche ait l'air d'être coupable, et de dire oh là là, il faut surtout pas faire ci, il faut surtout pas faire ça, attention à ce que vous dites, etc. C'est quelque chose qui empêche dans une certaine mesure les gens d'adhérer au projet, et ça c'est un truc qui est beaucoup discuté en ce moment. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est quand même un truc qui nomme assez tôt. Et le truc qui me paraît hyper intéressant, c'est sur ce que tu dis sur le nouvel esprit du capitalisme, dans le sens où à travers ce qu'il dit dans Acide Communisme, en fait, il a deux tendances. Il a une tendance très classique, très nouvel esprit du capitalisme. Le capitalisme recycle la contestation en permanence. Et donc, du coup, d'une certaine manière, les pseudo-rebelles ou les rebelles culturels qui prennent pas les choses à un niveau structurel alimentent la prochaine, le prochain produit marketing, etc. Il parle de Kurt Cobain là-dessus, qui se fait récupérer par le système. Et puis, du coup, il parle de plein d'exemples classiques. La pub Apple, d'une certaine manière, il y a cette dimension-là dans Désir post-capitaliste. Et d'un autre côté, dans Désir post-capitaliste, ce qu'il dit beaucoup, c'est qu'il va falloir arrêter de s'auto-flageller en disant qu'à chaque fois qu'on a eu un début d'utopie, début d'idées critiques, en fait, comme elles étaient pas assez, je sais pas assez consciente ou réfléchie ou pas mise en pratique de la bonne manière ou je sais pas quoi. En fait, on participe à alimenter le système parce que ce qui se passe quand même, c'est des phénomènes historiques beaucoup plus structurels comme la contre-révolution au Chili, la répression violente de la grève des mineurs en 95 et en Angleterre. Et donc du coup, il y a un peu une idée aussi que en fait, il y a des formes de récupération des idées radicales, certes, mais le principal facteur historique de la défaite, il n'est pas non plus toujours à trouver dans les idées radicales de gauche, voire il va inverser la proposition et dire, en fait, c'est qu'on n'assume pas assez notre radicalité. C'est-à-dire, à chaque fois, on s'excuse, on dit, ah, c'est vrai que nos questions, vouloir abolir le genre, par exemple, il parle pas de ça, mais moi, c'est ce que je projette quand je dis ça. C'est-à-dire, en gros, quand il parle des hippies, il parle du fait que, en fait, tout ce qui toucherait à une forme de vision d'une société complètement transformée et pas seulement des rapports d'exploitation adoucis, c'est vu comme trop radical. Et il propose quand même de remettre au centre l'idée que la société post-capitaliste, elle est radicalement différente. Et donc, du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'il en passe par un moment qui est pas si différent pour arriver à quelque chose de radicalement différent, parce que l'idée du post-capitalisme, c'est pas un saut dans l'inconnu, mais voilà. Et en même temps, l'acide communisme, c'est cette idée qu'en fait on n'imagine pas assez loin et que ça fait partie de la défaite. Quand il cite Ellen Willis sur ce qui s'est passé dans les années 60 aux États-Unis, il dit on a lâché trop tôt, on a fait trop de compromis, on s'est trop excusé de vouloir, etc. C'est pour ça aussi qu'il s'intéresse à l'autonomie italienne, parce que l'autonomie italienne, c'était nous voulons tout. C'était pas est-ce qu'on peut négocier des meilleurs salaires, etc. Donc la comment dire, sur ce sujet comme sur plein d'autres, je pense qu'à la fois il maintient des idées qui sont celles attention à la préemption de la critique ou à la récupération de la critique, voilà, et en même temps il propose des choses qui sont à un tout autre niveau aussi.
Peut-être que ça va nous permettre de rebondir ce que je vais dire sur l'accélérationnisme. Ah bah, ça tombe bien. Non, parce que ça me fait penser à un truc. Je reviens au CCRU. Parce que je relisais un texte du recueil sur le CCRU, au tout début, où il disait, alors nous, notre problème politique, c'est justement pas d'avoir un rapport au post-structuralisme, donc en l'occurrence de Luz Guattari, comme de rejouer une sorte de deuxième gauche, quoi. Enfin, ça, c'est pas intéressant. Ce qu'il faut, en fait, c'est juste, ce qu'on trouve cool, c'est l'ornichéisme, quoi. Enfin, tu vois, c'est CCRU, hein, c'est pas Fischer, hein. Je pense que c'est Nick Land qui a écrit ça, à mon avis, quoi. Mais bon, dès le début du CCRU, il y avait ça, hein. Donc, ça me fait un peu penser à ça dans la critique type nouvel esprit du capitalisme, etc. C'est que finalement, leur question, au moment où ils ont été accélérationnistes, c'était pas de rejouer, via cet héritage-là, quelque chose qui serait de l'ordre de la gauche au sens classique du terme. Et donc peut-être que là on revient et que au paradigme accélérationniste, justement, dans toutes ces ambiguïtés.
Bah, du coup, ça tombe très bien parce que j'avais préparé donc un petit extrait d'un article de 2006 qui s'appelle Nous voulons tout, qui est donc une référence explicite en effet à l'autonomie italienne. Et donc je passe un petit peu vite, mais donc un petit extrait. Personne ne sera surpris que je désigne comme ennemi Nietzsche, le perspectiviste, c'est-à-dire celui qui interrogeait non seulement la possibilité, mais la valeur même de la vérité. Il sera encore moins surprenant que je rejette le Nietzsche dionysiaque, le chantre du désir transgressif. Le perspectiviste et le dionysiaque sont bien trop opportuns. Le Nietzsche qui demeure inopportun, et ici je ne veux pas dire démodé, loin de là, est le Nietzsche aristocrate. Il ne faut pas prendre Nietzsche pour un théoricien politique sérieux, du moins pas au niveau de ses prescriptions positives. Mais le Nietzsche pourfendant l'insipidité et la médiocrité qui découlent des élans niveleurs de la démocratie ne saurait être plus incisif. Les véritables intérêts de Nietzsche se portaient du côté de la politique culturelle. Il ne se préoccupait des institutions gouvernementales et sociales que dans la mesure où elles produisent des effets culturels, sa question ultime étant quelles conditions permettent l'émergence des grandes productions culturelles. Petite cheville, hein, mais donc un billet de blog qui ressemble à un petit commentaire de Nietzsche fait un petit peu à la va-vite, on pourrait dire un petit peu plein de choses, tout ça. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il mobilise Nietzsche à ce moment-là? Je me suis souvenu des avertissements lancés par Nietzsche sur ce qui arriverait à la culture si tous les privilèges à prétention spéciale étaient niés, si le concept même de supériorité était aboli lorsque Chantal Houghton a remporté Celebrity Big Brother, c'est-à-dire la ferme des célébrités. Telle est la célébrité, la désublimation simultanée de la star et la promotion de l'ordinaire. Big Brother et la télé-réalité ont fait disparaître ces espaces de la culture populaire où excellait autrefois une classe ouvrière aspirant davantage qu'à la richesse ou à la gloire. Leur essor a marqué la défaite de cet élan prolétarien global à être davantage. Je ne suis rien, mais je dois être tout. un élan qui nie les faits sociaux en inventant des fictions sonores qui méprisent l'ordinaire au nom de l'étrange et de l'étranger. Ça rebondit un peu sur les trucs qu'on a dit. Hein. La culture populaire viendra-t-elle jamais à nouveau nous montrer que l'égalitarisme n'est pas hostile à une volonté de grandeur, à une exigence inconditionnelle de l'excellence, mais qu'il en dépend ?
Juste rebondir sur cette question du Nietzsche aristocrate, parce que je pense que ça fait un pont parfait vers ce qu'est devenu peut-être aujourd'hui l'héritage de l'accélérationnisme. Et donc on pense à Nick Lane, mais on pense aussi à Curtis Ervin, alias Mencius Moldbug, dont on dit qu'il est dans l'antichambre du pouvoir trumpiste, et qui lui se définit comme un monarchiste. Enfin, et donc comment est-ce que cette question de l'aristocratie, de la monarchie, de l'excellence, etc. Pourquoi est-ce qu'elle est mobilisée par Fischer, et quel pont entre la manière dont elle, enfin, est-ce qu'il y a un pont entre la manière dont elle est mobilisée par Fischer et le modernisme réactionnaire, l'accélération, ce qui est devenu aujourd'hui l'accélérationnisme.
Je rajouterais même juste un mini point pour redoubler dialectiquement ce que disait Zoé, mais là, il y avait aussi un nœud là-dessus qui était sur celui des institutions culturelles. Et on voit bien, par rapport à ce que tu disais, Guillaume, que donc en gros, l'idée, c'est qu'il nous faut rebâtir. Donc ça passe notamment là, à cet endroit-là, par nationalisation. Enfin, il est très énervé par la crise de 2008 pour des raisons évidentes. Et donc son point, c'est là, que ce soit les prolétaires qui payent pour sauver les banques, ça va pas. On renationalise tout ça. On appelle parasites les parasites, etc., etc. Un truc un petit peu populiste qui veut viser une espèce de souveraineté institutionnelle qui permettra de revenir... sur la partie la plus triviale, au beau programme de la BBC de son enfance, quoi. Dit trivial, mais c'est pas vraiment le cas, parce que son point, c'est de dire que c'est ce qui permettait l'émergence de ces choses-là, c'est tout un monde et des institutions qui les soutenaient. Mais donc, sans vouloir faire l'anarcho-destituant de service, mais en l'assumant pleinement tout de même, en fait, est-ce que le verre est pas déjà dans le fruit, quoi? Que ce soit dans la version moderniste ou accélérationniste, est-ce qu'on se cogne pas, donc, soit une espèce de social-démocratie molle, soit une des dérives, bon, dans les pires des cas, quoi, le cauchemar trumpiste, ou des choses comme ça, quoi, ou, à quel moment est-ce qu'il y a cette ligne de crête, elle peut vraiment être parcourue?
Peut-être dire un mot sur qui est Nick Land, en fait, parce que je sais pas ce qu'on en parle comme si c'était évident, mais, parce qu'en fait, voilà, bah, Nick Land, en fait, c'est un peu le, non, mais voilà, c'est un peu un astre noir, dans la philosophie anglaise, mais qui a été ultra mythique. Donc c'est lui en gros qui a cofondé avec Sadie Plant ce fameux groupe là informel à Warwick auquel participait Fischer. Et c'était un type qui était assez mythique parce qu'il était réputé pour préparer ses cours en soirée jungle, à prendre beaucoup de speed et à écrire sur Kant en tout en dansant. Enfin bref, voilà, il y a eu une espèce de mythologie comme ça. Danny Cland, il a écrit très très peu de textes. Hein, c'est réédité chez Urban Nomic, quoi. Et puis après, il arrête totalement tout ça pour s'uploader dans la finance, je sais pas, en Asie. À Shanghai, ouais, voilà. Et puis développer ensuite parallèlement une espèce de néo-darwinisme ultra-réactionnaire, hein, voilà, pour le dire très vite. Mais donc il a un statut très étrange en Angleterre, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a eu un devenir très clairement réactionnaire, et en même temps il a influencé, parce qu'apparemment c'était un prof génial, et puis il avait cette espèce de posture, voilà, on va en soirée jungle et c'est ça le séminaire, quoi, en gros, voilà. Donc bon, c'est pour le situer, parce que Fischer, finalement, je sais pas s'il a fait sa thèse avec Nick Land, mais enfin, en tout cas il a été, non, mais enfin, en tout cas il a été formé par ce personnage. Bon, quant à la question de cette ligne de crête, je ne sais pas si... Ouais.
Moi, je vais poser une autre question, en fait, parce que je n'ai pas la réponse. Donc, je renvoie une question. C'est le rapport que peut avoir Fischer à la question de la hiérarchisation des choses et donc, en fait, à l'ordre symbolique. Fischer, c'est quelqu'un qui prend absolument au sérieux, pour redire les mots que j'utilisais, c'est-à-dire ne conteste jamais la question du pouvoir, parce qu'il ne conteste jamais la fonction du père, par exemple. C'est-à-dire que dans son lacanisme, il est clair que les choses sont instituées, et vraiment au sens d'institution, et sont rangées. Donc il y a quelque chose dans la nature même du pouvoir qui est jamais contesté chez lui. Et que s'il peut y avoir, par exemple, un triomphe, une victoire, c'est une victoire hégémonique. C'est-à-dire qu'il propose une contre-hégémonie de gauche où il aspire et dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses aussi sexy que ces populistes, que ces néolibéraux, etc. ?» Nous qui avons des bons sentiments, visiblement, à un moment, nous qui avons un programme égalitariste, mais à partir de choses hiérarchisées, donc c'est là où on retombe sur cette espèce de patchwork qui peut paraître très agaçant a priori. Mais je reposerai la question à des gens qui connaissent peut-être mieux la chose lacanienne ou freudienne que moi, et de l'ordre symbolique, qui, on en parle assez peu, mais dans le réalisme capitaliste, dans cet assemblage de textes qui est le premier paru, il y a tout un passage là-dessus, hein, sur le fait de nommer et de déroger à la règle de l'ordre symbolique en nommant ce qui ne doit pas être dit, c'est-à-dire en prononçant ce qui est exclu du langage pour que l'ensemble tienne, et sinon ça s'effondre. Donc c'est aussi peut-être quelque chose qui l'habite. Voilà. Je ne sais pas si...
Bon, déjà, l'extrême droite, quand ils ont un rapport à la hiérarchie ou à l'excellence, enfin, je ne sais pas comment il faut nommer ça, c'est essentialisant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des natures aristocratiques et il y en a d'autres des médiocres, quoi. Alors que chez Fischer, c'est un idéal qui consiste à avoir un rapport à la transcendance. C'est-à-dire qu'en fait, le but, à la transcendance par rapport à soi-même, le but, c'est d'aller au-delà de ce qu'on est déjà. Donc, voilà. Ça, c'est sur la partie un petit peu, encore une fois, si on le prend au niveau un peu existentiel, voilà. Si on le prend au niveau un peu plus social, il n'y a pas que la droite qui a un rapport, par exemple, à des institutions qui chercheraient à produire des trucs sexy, comme tu dis. Il y a, donc du coup, ça a essaimé tout autour de Fischer en Angleterre avec ce truc qui s'appelle le communisme du luxe, avec son rapport qui revient aussi dans la suite communisme à l'idée d'abondance, c'est-à-dire qu'en fait, le but du communisme, c'est pas de se dire « Ah ben, on va éviter chaque truc qui pourrait nous classer entre nous, etc. » C'est de créer des conditions matérielles où la contradiction entre la richesse et... Enfin, l'idée que toute richesse irait de pair avec des inégalités disparaît. Voilà, ça veut pas dire qu'il y a pas des différences de craft ou des, enfin, je sais pas, de comment dire, d'intensité ou, et ça rejoint beaucoup, bon, j'ai lu récemment, j'ai pas fini là, le dernier bouquin de David Graeber qui fait une espèce d'anthropologie, comparée comme ça avec évidemment un point de vue anarchiste et qui décrit plein de sociétés où en fait, là, comment dire, il y a des formes de, comment dire, de différences de valeurs qui ont l'air stimulantes pour les gens qui les pratiquent. C'est-à-dire il y a des gens qui sont reconnus pour être le meilleur, la personne qui parle le mieux et qui a cette fonction dans la communauté et on lui sait gré d'être ça. Il y a aussi des gens qui ont une meilleure valeur, enfin comment dire, qui ont un meilleur statut politique, mais en fait tout le monde s'en fout parce que le statut politique c'est pas très intéressant. Donc il y a dans son anthropologie comparée, il montre qu'il y a énormément de configurations variables entre un principe de hiérarchie sociale et des modes de différence de valeurs dans les pratiques sociales. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais du coup, finalement, on peut renverser la question et se dire à quel moment c'est devenu si étriqué les imaginaires politiques en Occident au XXe siècle pour qu'on pense qu'on ait le choix entre la destitution. Le fait de faire les choses à petite échelle entre nous, comme ça on est sûr que tout va bien. Et ah non, en fait, il faut absolument qu'on la conquête du pouvoir, la puissance maximale. Il faut bien qu'on soit bien hiérarchique pour être bien puissant, etc. C'est vraiment c'est hyper étriqué comme alternative. Et là, je suis d'accord avec cette tendance de Fischer à dire j'ai pas de système pour expliquer c'est quoi le système suivant, mais par contre l'alternative me paraît médiocre peut-être pour employer ces mots.
Possiblement dans l'accélérationnisme, on va dire de gauche, il y avait une volonté de rejouer quand même une forme d'enthousiasme moderniste, quoi. Enfin, je pense que, ouais. Enfin, non, t'es pas d'accord. Enfin, c'est peut-être pas ça la logique de l'accélérationnisme, mais j'ai l'impression qu'il y avait au moins cette volonté de réactiver les imaginaires de ce point de vue-là. Hein. Accélérons pour un communisme du luxe, quoi. Je pense, si on en fait une lecture de gauche. Non, t'es pas d'accord.
Pour le communisme du luxe, je dirais que c'est l'inverse, c'est-à-dire que. En tout cas, moi, je l'ai vu apparaître après qu'il ait commencé à beaucoup commenter Marcuse, et notamment l'hypothèse de Marcuse selon laquelle, il faut partir de l'hypothèse qu'il y a déjà une abondance dans les sociétés capitalistes tardives. En fait, il y a déjà une abondance matérielle qui permettrait d'être libre et assez largement émancipé du travail. Du coup, le capitaliste doit sans cesse travailler à construire le consentement idéologique et la violence physique qui fait qu'on... On n'est pas simplement, on n'a pas une vie libérée d'un travail quotidien aliénant, etc. Donc ça, pour moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Et j'avais un peu peur. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas pu aborder où tu disais, enfin un peu, le ver est dans le fruit de l'accélérationnisme, quoi. Que la réception de Fischer se fasse sous l'angle de d'un espèce de d'idée d'accélérationnisme. En gros, il suffit d'accélérer les tendance du capital, de produire toujours plus de désirs, etc. Et puis on va le dépasser comme ça. Et ça, moi, je pense que le ver est dans le fruit depuis le début du CCRU chez Nick Land, y compris dans les textes où les gens disent à l'époque Nick Land n'était pas encore d'extrême droite. Moi, je trouve que c'est des textes avant-gardistes, pour moi, c'est comme les futuristes italiens, quoi. Enfin, je vois pas trop la différence. Et Fischer, avait un rapport un peu ambivalent à ça, parce qu'il employait des, il était fasciné par Nick Land, il remixait du Nick Land dans ses textes, et en même temps il avait déjà la mélancolie du fait que il arrivait toujours un peu déjà trop tard dans l'histoire. On sent qu'il espère des formes de lutte ou de réalité politique qui sont absentes. Et donc du coup c'était un peu plus compliqué pour lui, et du coup j'avais très peur qu'on dise ah oui Fischer le mec qui pense qu'il faut réinventer le futur et aller plus vite, etc. Et je me disais c'est pas ce qu'il dit, et en plus c'est vraiment pas l'option politique la plus intéressante parmi toutes celles qui traversent.
Dans le texte du CRE dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'il disait, quoi. Non, nous on n'est pas de gauche, c'est pas ça qui nous intéresse, on est des futuristes. Non mais ils l'ont pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. C'est sérieux, je parle. Oui, non, mais justement pour dire ta raison, enfin je suis d'accord avec toi, parce que les textes dont je parlais, ils disent ça en gros, quoi. Voilà.
C'est le moment où on ouvre la parole. Du coup, s'il vous reste encore un atome d'énergie, je vais faire passer un micro.
J'ai été marqué par la parenthèse que tu as fait sur le like, que Mark Fischer serait dans le refus du like. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est théorisé chez lui ? Parce qu'il a des lignes ou des pages sur le like. Et question corollaire de traduction, est-ce qu'on peut traduire like par en mode ? Je suis très angoissé par cette espèce d'invasion dans la langue française de en mode, qui est même pas ce terme qui ironise, mais qui, je sais pas comment décrire ce que fait ce en mode dans la phrase. Je vais parler en mode si je fais quelque chose. C'est même pas que ça ironise, c'est que ça ramollit, ou je sais pas.
Alors, pour répondre aux deux choses à la fois, c'est l'expérience de traduction. Bien sûr, il thématise jamais la question du like. Il thématise pas. Lui ne le fait pas. Mais pour répondre aux deux à la fois, c'est comme je disais, c'est ce panorama de l'ensemble du travail de Fischer qui m'amène à penser ça et à me dire ah, en fait, il rejette le distinguo possible entre présentation représentation, entre voilà ce qui est immanent, ce qui n'est pas. Dire bon, en fait, je vais jamais dire les choses comme. Je vais dire les choses et je vais les prendre au sérieux. Ce qui se présente, je se présente. Ce que je ressens, je le ressens. Ce que d'autres vivent, le vivent. Ce qui est un geste pour moi de contrer ce like, ce likeisme, qui serait voilà hérité. Bon, il me semble moi historiquement hérité de la période beat dans des années 40-50, dans laquelle et de toute l'affiliation qui va jusqu'au hipster, etc., cette distanciation qui s'est installée, où, en fait, il est beaucoup plus confortable de penser qu'on peut toujours tenir le monde à distance que d'essayer de le penser tel qu'il se présente. Ce qui est extrêmement pénible, conduit à la dépression, voire au suicide. C'est ça que moi, je comprends chez Fischer. C'est-à-dire, il dit, ben moi, excusez-moi, je prends les choses au sérieux. Et il finit par se flinguer. Et donc, une des façons de se soigner socialement, c'est de penser que tout ce qui arrive, toutes les bombes qui tombent et toutes les toute la valeur qui se valorise et qui nous broie le faisant, ce n'est qu'un simulacre. Et alors, on est un peu sauvé, parce qu'on peut se prémunir de simplement le pastiche. Je vis dans un pastiche, c'est pas si grave que ça, parce que je peux toujours ironiser sur ma condition. Et donc, c'est une façon de se sauver, un peu mécaniquement, de tenir à distance. Et moi, j'ai l'impression que quand je lis et que je traduis Mark Fischer, je me dis, mais il fait jamais ça. Il évite toujours ça, et même il le nomme comme tel. Quand il décrit le monde de Philip K. Dick, qui est fascinant pour lui, dans lequel quelqu'un évolue à l'intérieur d'une simulation, ou quand il se pose quand il lit Baudrillard et tout ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est en fait que de vivre dans cette expérience-là et d'accepter qu'il puisse y avoir des simulations de simulations. Et c'est là que j'introduis ça. Lui, il le thématise pas. Donc, pour te répondre, je pense que en un sens, c'est awful pour lui. C'est-à-dire, il est face à quelque chose de quasiment insoutenable, de toujours prendre la réalité pour argent comptant. Mais moi, je suis pas dépressif Et je comprends la dépression à travers notamment Fischer, et je me dis, c'est l'expérience du dépressif. C'est-à-dire que la réalité ressemble vachement au réel. Alors que pour moi, qui suis névrosé tranquillou, non. La réalité, le réel, enfin, je me cogne peu. Voilà. Donc, je peux toujours faire du like. Et avec mon like, je tiens à distance le mur du réel dans lequel je me tape pas. Voilà. Donc, je sais pas si je suis en mode dépressif ou en mode névrosé. Je dirais pas que ça traduit. Pour te répondre directement sur cette question-là, ça ne traduit pas. En mode, non. Parce qu'il n'y a pas, en mode, il y a quelque chose de vraiment très neutralisant par rapport à la question de l'ironie. She was like my friend. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je traduis « she was like my friend » ? Elle faisait comme si elle était mon amie ? Non, à ce moment-là, elle était ce qui aurait pu être l'expérience la plus proche de l'amitié. Et c'est très difficile à traduire. Heureusement, chez Fischer, ça se présente pas. J'ai pas besoin de me poser cette question, mais je me la pose négativement, parce que partout ailleurs, je vois du like.
Oui, moi je participe à Michel Firk, et j'ai découvert à cette occasion, et pas mal travaillé avec Enzo, les textes de Marc Fischer à l'occasion de leur traduction française. Et je voulais juste rajouter quelque chose qui moi m'a vraiment scotché quand j'ai découvert Fischer, au-delà de déjà ce truc qui était assez rare à l'époque en France de faire de la philo et de faire de la philo à partir d'objets culturels, du coup de s'appuyer sur des objets culturels. Et d'ailleurs, moi, j'y trouve pas des concepts, des choses qui vont m'aider pour les luttes. Par contre, son geste de recherche et les manières qu'il a d'interroger les trucs, je trouve ça passionnant, et je trouve que ça peut être très, très aidant, quoi. Et en plus, il arrive à faire de la critique culturelle en le mêlant aux matérialités de l'époque, à la fois les matérialités des luttes et les matérialités de comment sont produits les objets culturels. En fait, je voulais répondre un peu à des trucs qui ont été dits sur l'excellence. Moi, je me suis politisé dans les mouvements de chômeurs et surtout intermittents du spectacle, où je retrouve bizarrement un discours que ces mouvements de chômeurs et d'intermittents ont beaucoup tenu en France, mais depuis un point de vue radicalement différent. Le discours intermittent, il était beaucoup basé sur le fait que l'assurance chômage des intermittents avait fait entrer dans les professions culturelles françaises plein de gens qui n'avaient pas de titre à y rentrer. Des prolos qui, justement, y rentraient parce qu'il y avait un système d'assurance chômage qui leur permettait de faire cette pratique artistique-là. Et chez les intermittents, on n'arrêtait pas de dire que ça a fait aussi la qualité d'une certaine culture française, y compris qu'aujourd'hui, on valorise en tourisme et en trucs dans le genre. Et de la même manière, chez Fischer, il y a vraiment ce truc de la BBC comme service public, qui est vraiment une époque où plein de prolétaires, entre les années 50 et 80, arrivent à accéder à ce métier. Et c'est ça qui fait la richesse culturelle la richesse culturelle de ce pays à ce moment-là. Et que, de fait, c'est les prolos qui font l'art. Enfin, c'est ça l'excellence. C'est l'excellence, c'est pas une politique gouvernementale, et c'est pas du tout le fait du prince quand il y a que des bourgeois, des aristos qui peuvent créer de la culture. Et il y a ça, c'est hip. Et justement, ces dimensions subjectives et matérielles chez Fischer, moi, je trouve que c'est un des trucs vraiment les plus passionnants, quoi, pour le coup. Et par exemple, là aussi, sur mes scotchs de mouvement de chômeurs et tout, là, en refeuilletant justement le gros pavé, c'est assez marrant comment il finit par mêler la dépression et le chômage. Enfin, où il raconte vraiment son parcours, où, même avec sa famille, enfin, il se sentait pas titre à écrire. Il a fini chargé de cours, mais sa famille lui disait encore qu'il faudrait qu'il fasse autre chose, que l'écriture, c'était qu'un hobby. Là, il est mort, on parle que de son écriture, mais ça, dans sa famille, même de ça, il en avait honte, il n'arrivait pas à en faire quelque chose. Et ces dernières pages, c'est de rappeler que ce sentiment-là et sa dépression, elle était justement pas individuelle, mais construite par les politiques thatchériennes, etc. Enfin, que voilà, le capitalisme a aussi une force subjective de malade, et que, enfin, il finit ces dernières pages, c'est vraiment comment sortir de cette espèce de dépression collective créée face aux politiques d'austérité pour réussir à le retourner en force communiste.
Ouais, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, quand j'avais parlé de l'importance de la critique musicale anglaise, en effet, l'importance jouée par la BBC, et d'ailleurs, il s'est beaucoup intéressé à un label qui s'appelle Ghostbox, qui justement, dans beaucoup de, enfin je sais pas si c'est tous les disques de Ghostbox, mais utilise énormément de samples de la grande époque de la BBC, et il a beaucoup écrit sur ce label, voilà. Voilà ce que je pourrais rebondir.
Par rapport à ce que tu dis là sur l'intermittence, c'est vrai qu'il est proche de groupes militants comme Plan C Et puis il y en a un autre qui continue un peu aujourd'hui autour de Jérémy Gilbert, etc., qui sont des gens qui réfléchissent à partir de la catégorie du temps libre. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup lu... j'ai jamais croisé la route du mouvement intermittent historique, mais j'avais beaucoup regardé à la fois les archives de Chômeur autour de Cash, du usine Cash, et puis ensuite le site de la CIPIDF pendant un moment. Et je retrouve pas mal de choses sur le temps libre comme catégorie, comme objectif principal des luttes, quoi. C'est un truc, c'est vrai, qui est assez... Après, sur ce que tu dis sur la qualité de la culture qui serait déterminée par l'intermittence, on peut se dire il y a des éléments de ça, mais en fait, il parle quand même beaucoup des squats et de la disponibilité des logements pas chers. Donc, on peut aussi faire la lecture inverse et un truc complètement anti-institutionnel et dire c'est juste... voilà. Et moi, dans Audimat, on a publié le bouquin de Cosy Fanny Tutti, Ars Ex Music, où elle raconte que, bah, pareil, elle est prolo, en plus, elle est dans une, elle vit en communauté, dans des bâtiments libres, etc., mais dans des conditions qui sont pas ouf, mais en fait, elle a le temps de faire des choses radicales suffisamment longtemps pour qu'en fait, ça soit plus, on puisse plus l'ignorer, quoi, au bout d'un moment, et qu'il y a un, voilà. Et peut-être que dans d'autres conditions, elle aurait bifurqué à plein de moments par juste besoin de survie, ou alors il serait passé d'autres choses. Et voilà, ça, c'est aussi une dimension importante.
Je propose qu'on s'arrête là. Et un dernier truc, pour les peut-être plus geeks d'entre vous, le mix qui était passé avant était un mix de Fischer, qui postait ça sur son blog aussi, des espèces de mixtapes qui sont assez importantes à écouter, plus que comme des playlists, parce qu'il y a aussi des nerds qui ont rechoper tous les titres qu'il plaçait, mais Fischer un petit peu touché, plus ou moins heureusement, à la production musicale. Mais en tout cas, c'est MX, je pense que c'est là qu'il a trouvé le truc un petit peu plus formel. Je sais pas si ça va aller en live, mais en tout cas, là, y a des atmosphères, il y a des cohérences, il y a des cuts, des samples, des trucs qui sont super, quoi. Donc celui qu'on écoutait juste avant, ça s'appelait Regardez ce que la peur a fait à notre corps. Et là, je pensais mettre Plus jamais de lundi matin misérable. Voilà. Merci infiniment à vous, et merci à vous pour votre patience, c'était bien super.
Can't stop playing this song, it makes me high. I hear myself singing, I'm feeling so alive. Let this go on forever, I don't wanna get off this ride. I can't stop playing this song, it makes me high.
Stop.